7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 décembre et toujours à la une de l'actualité ce matin, la grogne populaire. À 7h20, lumière sur les cahiers de doléances en mairie. L'objectif est de faire remonter la parole des Français jusqu'au gouvernement. Et ça commence sur un bout de papier. Nous verrons que pour l'instant ça marche. Après, les policiers, les fonctionnaires auront-ils eux aussi droit à un cadeau sous le sapin? En tout cas, ils ont rendez-vous dans 2 heures à Bercy pour réclamer la même prime défiscalisée que les salariés du privé. On vous en parle dans le journal de 8h. Et puis, à 4 jours maintenant de Noël, on va vous raconter une belle histoire à 7h45, celle d'une maman qui élève seule et sans argent sa fille handicapée. Son histoire a été diffusée mardi matin dans nos journaux, sur Europe 1. Et c'est l'un de nos auditeurs qui a décidé de se transformer en bienfaiteur de façon très humble. Vous verrez, elle s'appelle Emma, il s'appelle Jean-Jacques. Ils seront tous les deux avec nous dans 3 quarts d'heure sur notre antenne. Il y aura aussi l'interview politique d'André Crespo-Mara, Jean-Michel Apathy, Axel de Tarlé, David Abiker, Nicolas Canteloup. Toute la rédaction est là pour ce dernier vendredi avant Noël avec votre plus beau pull de Noël sur les épaules, ma chère Céline Dacosta.
Mais oui, qui clignote.
C'est le pull
avant sur Europe 1.fr.
Le pull le plus moche.
Ah, vous le trouvez moche, hein?
Non, pas le vôtre. Je veux dire, c'est un concours de pulls moches, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça se fait aujourd'hui, le 21 décembre. C'est pull de Noël.
Ah, mais moche, oui, vous
beau.
Avez raison.
Oui, ouais.
Moi, j'en ai pas. Je suis venu avec mon pauvre pull comme ça, monochrome.
Bon
réveil à
tous.
Vous le prêterai. C'était un plaisir hier d'être en direct avec vous. On continue toujours. Il n'y a pas de public dans la salle, mais il y a du public dans nos écouteurs. Salut!
Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 décembre, premier jour de l'hiver. Bienvenue sur Europe 1 et bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Hélène Zélani, bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Il pourrait être le commanditaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, le djihadiste Peter Sherif, arrêté à Djibouti. Il est entre les mains de la police française. Un camouflet pour Donald Trump, le chef du Pentagone, Jim Mattis, démissionne au lendemain de l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie. Donald Trump prépare aussi un retrait d'Afghanistan. Et puis c'est l'inquiétude à Versailles où les gilets jaunes pourraient manifester demain. Du coup, c'est tout le domaine qui sera fermé.
Europe 1.
Son nom, Peter Sherif, mais il est aussi connu en tant qu'Abou Hamza. Ce djihadiste français de 36 ans a donc été arrêté à Djibouti. On l'a appris dans la nuit. C'est une très grosse prise au Vernuccio, car il pourrait être le commanditaire de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015.
Oui, c'est ce que soupçonnent les services de renseignement qui, quelques mois avant l'attentat de Charlie Hebdo, avaient intercepté plusieurs mails échangés entre Peter Sherif et les frères Kouachi. Peter Sherif, alias Abou Hamza, est un de leurs amis intimes. Tous les trois ont fait partie de la même filière djihadiste des buts de Chaumont à Paris dans les années 90. Puis leur chemin se sépare pendant que les Kouachi restent en France. Peter Sherif part au combat en Irak et en Syrie avant d'être arrêté puis extradé vers la France. Mais en 2011, alors qu'il comparaît libre devant la justice, il parvient à s'échapper. Direction le Yémen, où il rejoint les rangs d'Al-Qaïda. Quelques mois plus tard, il invite les frères Kouachi à venir s'entraîner au tir sur zone avec lui. Les liens se renforcent. Abou Hamza fait même de Sherif Kouachi son contact en France. Ce matin, il est donc aux mains de la police française dans l'attente de son extradition. Les enquêteurs vont pouvoir l'interroger sur son implication dans l'attentat de Charlie Hebdo, mais aussi sur ses contacts avec un autre personnage, Hamedi Coulibaly, auteur de l'attentat de l'Hypercacher en janvier 2015.
Aude Vernuccio. Et puis alerte terroriste en Allemagne. La police recherche 4 suspects qui auraient préparé un attentat kamikaze dans un aéroport et notamment près de la frontière française. Et
c'est un coup très dur aussi pour l'administration Trump. Dans un autre sujet, le chef du Pentagone claque la porte.
Oui, Jim Mattis annonce sa démission du gouvernement. Le ministre de la Défense ne cautionne pas le prochain retrait des troupes américaines en Syrie. Et on sait désormais que Donald Trump compte aussi retirer une bonne partie des troupes stationnées en Afghanistan. Sonia Dridi, une stratégie aux antipodes de ce que souhaitait le général Mattis.
Oui, l'ancien général des marines quitte le navire et c'est un coup très dur pour Donald Trump. Homme d'expérience, très respecté sur la scène internationale, il incarnait une forme de stabilité au sein de la Maison-Blanche. Mais la décision du président américain de quitter la Syrie aura été la goutte de trop. Elle est d'ailleurs au cœur de la colère qu'il exprime dans sa lettre de démission. Jim Mattis va même jusqu'à remettre brutalement en cause la vision du monde de son ancien patron. Il lui reproche de ne pas traiter les alliés des États-Unis avec le respect qu'ils méritent et d'abandonner les Kurdes qui risquent de faire face à une nouvelle offensive de la Turquie. Selon le Washington Post, il a tenté jusqu'au bout de faire plier Trump, rien n'y a fait. Et ce matin, son départ fracassant inquiète jusque dans les rangs de l'opposition démocrate. Pour beaucoup, il était le dernier à pouvoir tempérer le président américain.
Sonia Dridi, vous êtes à Washington pour Europe 1. Et puis encore un coup de théâtre dans l'affaire Carlos Ghosn au Japon. Un troisième mandat d'arrêt avec des charges supplémentaires, ce qui veut dire que sa détention est prolongée d'au moins 48 heures. On parlait pourtant jusqu'ici d'une libération du patron de Renault sous caution, libération qui aurait été imminente.
Europe 1, il est 7h04.
Nuit blanche pour les députés français. Ils ont adopté les mesures d'urgence qui ont été promises aux Gilets jaunes.
Oui, défiscalisation des heures supplémentaires au 1er janvier. Tous les salariés, y compris les fonctionnaires, pourront en profiter. Exonération élargie de la hausse de la CSG pour les retraités modestes ou encore prime exceptionnelle aux salariés gagnant jusqu'à 3600 euros. Le texte doit aujourd'hui être validé par les sénateurs. Pour de nombreux gilets jaunes, le compte n'y est pas. En ce jour anniversaire des 41 ans d'Emmanuel Macron, certains prévoient des actions symboliques, mais aussi des manifestations. Demain, notamment au château de Versailles. Par mesure de sécurité, c'est tout le domaine qui va rester fermé aux grandes dames des commerçants. Écoutez le reportage de Jean-Jacques Herry.
Fermé pour la deuxième fois les grilles du château le dernier week-end avant Noël. Une décision qui s'abat comme un couperet sur les restaurants voisins.
D'habitude, on a toujours une quarantaine de couverts qui est déjà réservé pour samedi. Là, on a simplement deux tables et terminé.
Jean-Luc est le directeur du pavillon Colbert. C'est l'établissement le plus proche de l'entrée du monument.
Nous avons un hôtel, on est pratiquement toujours complet.
Et là, pour samedi?
On a 23 chambres ici, mais on en a plus de la moitié qui est libre. C'est une perte de 4000 euros à peu près.
Cette fermeture vient clore un automne déjà morose pour les commerçants. Fanny travaille essentiellement avec une clientèle internationale. Aujourd'hui, les touristes ont peur. Avec les manifestations, l'image de la France a beaucoup souffert, dit-elle.
À cause des images qui étaient vues par le monde entier, surtout en Chine, du coup, il y a beaucoup moins de touristes.
Guillaume Versaillais comprend pourtant le choix des Gilets jaunes de venir manifester dans sa ville.
C'est quand même un symbole, même si le pouvoir n'est pas ici. Voilà, il y a des revendications, on les comprend. On espère qu'il n'y aura juste pas de casse comme on a pu le voir à Paris.
Et le préfet des Yvelines présentera justement tout à l'heure le dispositif de sécurité prévu pour encadrer la manifestation.
Jean-Jacques Herry à Versailles pour Europe 1. Hier, Emmanuel Macron a répondu personnellement aux signataires de la pétition Change.org intitulée « Pour une baisse des prix des carburants à la pompe », pétition qui a déjà recueilli plus d'1 150 000 signatures. « Vous avez raison », écrit le président, « votre message, je l'ai entendu ». Et il propose à l'initiatrice de la pétition, Priscilla Ludowski, d'échanger avec lui par mail.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal, on va partir en Angleterre, l'aéroport londonien de Gatwick, qui a été paralysé par des drones qui ont empêché tout décollage. Et puis, on n'en sait plus sur l'esprit de Noël. Où se trouve l'esprit de Noël? Dans notre cerveau, apparemment. Mais non, mais vous allez voir, c'est une enquête scientifique. On en parle juste après ça. Bon réveil à vous tous. Youpi!
Il est 7h08, votre matinale info, Nico Saliagas.
C'est la suite du journal avec Hélène Zélani. On va vous parler de l'un des plus gros aéroports d'Europe en Angleterre, totalement bloqué depuis hier. C'est l'aéroport de Gatwick, près de Londres.
Et vous savez pourquoi? À cause de deux drones repérés hier au-dessus de la zone de l'aéroport. L'armée a même été appelée à la rescousse pour essayer de retrouver le ou les pilotes. Au moins 120 000 passagers en subissent les conséquences. Anaïs Cordoba les a rencontrés pour Europe 1.
Devant ce bureau d'information du terminal sud de Gatwick, une queue de plusieurs centaines de personnes. Les traits tirés, la mine défaite, certains sont là depuis des heures, levés à l'aube pour prendre un avion qui n'a jamais décollé à cause des deux drones. Ces touristes américains et finlandais hésitent entre inquiétude et humour.
It's crazy. C'est fou, je regarde les news toutes les 10 minutes, juste pour m'assurer qu'il n'y a rien de plus grave. Je me sens pas très rassuré, mais bon.
Voilà ce qui va se passer après le 29 mars, l'an prochain, avec le Brexit. Voilà la situation chaotique qui nous attend.
Nathalie est française. Avec ses 3 enfants, elle va devoir rejoindre un autre aéroport sur lequel sa famille a été déroutée. Leur vol direct vers Sainte-Lucie est remplacé par un voyage de 48 heures avec 2 changements.
C'est inattendu, c'est la première fois que ça arrive, mais les drones, c'est pas nouveau. Ils auraient dû déjà mettre en place des blocages de drones aux alentours des aéroports en anticipation de ce genre de problème.
La priorité des autorités britanniques est donc de retrouver le ou les pilotes de ces drones. Même petits, avec la vitesse, ces appareils peuvent causer de graves accidents s'ils rentrent en collision avec un avion. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et si vous partez pour les vacances de Noël qui commencent ce soir, il y aura foule dans les gares. 8 millions de voyageurs attendus sur 2 semaines, 3% de plus que l'an dernier.
Et sur les routes, ce vendredi est classé orange dans toute la France pour les départs et même rouge en région parisienne. Idem demain.
Ça vous fait quoi quand vous entendez ça, Nikos?
Ben, je revois Mariah Carey en face de moi lors d'une émission.
Ben oui, c'est sûr.
Équipe
en
de
simplicité.
Voilà, je le joue vraiment modeste. Non, ça me rappelle Noël, évidemment.
Ça vous met peut-être en joie, hein, comme Nikos.
J'en deviens un gamin.
Peut-être que ça vous laisse complètement de marbre.
Pas cette chanson. Le petit Papa Noël me laisse vraiment.
Alors la question,
non, marbre,
c'est
mais...
est-ce que vous.
Voilà. Ah ben là, voilà. Voilà.
Est-ce que vous êtes sensible à l'esprit de Noël,
voilà,
ses chansons, ses sapins,
clairement,
ses guirlandes, son odeur de vin chaud? Aussi étonnant que ça puisse paraître, selon des chercheurs de l'université de Copenhague, il y a bien une explication médicale, Mélanie Gomez.
Ces chercheurs ont donc réussi à localiser l'esprit de Noël dans notre cerveau. Pour cela, ils ont pris 20 volontaires, 10 qui avaient l'habitude de célébrer les fêtes avec beaucoup d'enthousiasme et 10 autres, au contraire, qui n'étaient pas du tout sensibles à la magie de Noël. Tous ont été exposés à plusieurs images sur le thème de Noël, tout ça sous IRM pour observer ce qu'il se passait ou pas dans leur cerveau. Résultat, du côté des amoureux des fêtes, il y avait une activité plus importante, concrètement 5 zones cérébrales précises s'illuminaient en quelque sorte en réponse à ce stimulus. Un résultat qui n'étonne pas Hugues, 35 ans, l'esprit de Noël, lui, le ressent chaque année intensément, sûrement jusque dans son cerveau.
Tout ce qui va me permettre de faire vivre Noël pendant 4 semaines, je vais le prendre. Les films de Noël, la tisane de Noël, préparer... très en amont les menus. Je vais étaler mes achats sur plusieurs semaines pour faire vivre le plus longtemps possible cet esprit Noël à 100%.
Alors chez les autres, ces zones cérébrales ne s'activent pas, mais ce n'est pas une fatalité. L'esprit de Noël, attention, ça peut aussi vous tomber dessus de façon tout à fait inattendue, affirment certains psys. Il suffit parfois d'un heureux événement, une naissance ou un mariage pour brusquement adorer Noël.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. On aime tellement qu'on vous en remet un petit peu.
Allez. Qu'est-ce que vous dansez bien ? Danse avec Hélène Zélani, toi aussi, auditrice, auditeur. En direct sur Europe1.fr, merci de votre fidélité. C'était le journal de 7h.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h12, souriez, c'est l'édito éco avec Région Job. Des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Retrouvez-les sur regionjob.com. Et l'édito éco, c'est avec Nicolas Barré, Nikos.
Et oui, Nicolas Barré, c'est le spécialiste. C'est le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et là, effectivement, avis de tempête pour les finances de la France. Après les mesures pour répondre à la crise des Gilets jaunes, les fonctionnaires font monter la pression et la dette s'envole. Tout le monde veut quelque chose.
Oui, pour la première fois de notre histoire, l'État va devoir emprunter plus de 200 milliards d'euros l'an prochain sur les marchés financiers. Alors ça ne dit sans doute pas grand-chose, 200 milliards, mais sachez quand même que ça fait 6 fois le budget de la défense ou bien 4 fois le budget de l'éducation nationale.
C'est beaucoup.
Cet argent, ben oui, c'est beaucoup, il va falloir aller le chercher auprès des investisseurs internationaux qui regardent ce qui se passe en France et qui risquent de se dire, eh ben écoutez, on vous prête mais un peu plus cher, et à ce niveau de dette vous comprendrez bien que la moindre hausse des taux d'intérêt a des répercussions considérables.
Oui, parce qu'en fait les investisseurs veulent comprendre à quoi va servir l'argent, tout
oui,
simplement.
Exactement, et ce qu'ils voient, c'est qu'on est en train d'ouvrir un peu la boîte de Pandore. La crise des gilets jaunes, c'est plus de 5 milliards de dettes en plus. Et après le geste en faveur des policiers, les revendications montent dans le reste de la fonction publique. Le risque de contagion est évident. Les demandes de revalorisation affluent à l'hôpital, notamment chez les infirmiers et les aides-soignants. Ils sont un demi-million au total. Le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, reçoit ce matin les fédérations de fonctionnaires qui vont aussi lui demander des primes exceptionnelles de fin d'année. Bref, le risque est que le gouvernement soit obligé de lâcher du lest alors qu'il n'a pas encore vraiment commencer à réformer en profondeur le fonctionnement de l'État. La bonne manière de faire en principe, c'est au contraire de réorganiser les services et les administrations et seulement après d'offrir la carotte avec des primes, voire des hausses de salaire. Là, sous la pression, eh bien, on s'apprête à faire le contraire, à distribuer de l'argent sans avoir rien changé. Et ça, eh bien, quand vous êtes un État qui doit emprunter 200 milliards d'euros dans l'année pour boucler ses fins de mois, ça coûte très cher.
Alors ça, c'est la, on va dire, c'est du côté des comptes, du livre des comptes, mais c'est la carotte qui est devenue cagnotte nécessaire pour qu'il n'y ait pas explosion sociale. Vous êtes d'accord?
Exactement.
Avec ça. Nicolas Barré pour l'édito Éco, c'est tous les jours à 7h10.
Il est 7h14. À présent, on va retrouver Martin Fenot qui cette semaine est aux côtés de ceux qui préparent Noël.
Vous êtes où ce matin, Martin?
Alors ce matin, je vous emmène dans un appartement anonyme. Il n'y a pas de nom sur la sonnette. À l'intérieur, deux bureaux avec deux téléphones qui sonnent en permanence.
Mmh. SOS Amitié, bonsoir.
Ah.
Voilà, je suis à Rennes, voilà. Parce qu'ici, l'association SOS Amitié cherche des bénévoles. Ils assurent une permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 même. Le soir de Noël, c'est Solange qui sera à côté du téléphone. Elle sait que cette nuit-là, ceux qui appellent sont souvent surpris de l'entendre décrocher.
Ah, vous êtes là. Comment se fait-il que vous soyez là?
C'est la surprise. J'ai l'impression d'un soulagement, comme s'il y avait une bouée qui se dégonfle. Dans des moments particuliers comme cette nuit-là, eh bien, il y a quelqu'un. C'est pas un répondeur, c'est une vraie voix, c'est une voix humaine, et il y a véritablement un échange. Il peut y avoir des problématiques lourdes. Dans d'autres situations, ça reste extrêmement léger. Certains, quelquefois, vont souhaiter partager un chant avec nous, partager une prière. Et les gens, en général, raccrochent en remerciant d'être présents. C'est un immense cadeau.
C'est une réponse à la solitude aussi. Alors évidemment, on pense au Père Noël est une ordure, hein, Martin Fenot, mais là, c'est quelque chose de très sérieux. Et pendant les fêtes, il y a plus d'appels que d'habitude. Ça se multiplie, en fait, du côté des SOS Amitié.
Exactement, ils sont particulièrement sollicités en ce moment. Michel, une bénévole, m'expliquait que certains appels pouvaient durer jusqu'à 2 heures.
Ça sonne tout le temps. Il y a toujours des gens qui nous appellent. Les appels pour la période des fêtes sont toujours un peu plus douloureux peut-être. En tout cas, les gens parlent de cette solitude, qu'ils n'ont pas vu leurs enfants depuis des années, que tout ça, ça pèse encore plus au moment des fêtes, quoi. On est absolument persuadés d'être, j'ai presque envie de dire, indispensables à bien des gens.
Est-ce qu'on en sait plus sur le nombre d'appels qu'on reçoit à SOS Amitié, Martin Fenot ?
Alors ce qu'on sait, c'est que le téléphone sonne en moyenne toutes les 40 secondes sur toute la France. Ils parviennent à peine à répondre à la moitié des appels. Donc il y a un vrai besoin. Donc si vous souhaitez devenir bénévole, l'engagement c'est de donner 4 heures par semaine à l'association.
Ah, c'est pas mal, mais c'est pour une bonne cause. L'appel est lancé ce matin sur notre antenne. Et n'oubliez pas, si vous êtes isolé, si vous connaissez des personnes seules, vous pouvez, elles peuvent appeler SOS Amitié pendant les fêtes, elles peuvent aussi appeler Europe 1. Puisque notre libre antenne est ouverte de 22h30 à 1h du matin, il y a Sophie Peters la semaine de Noël et puis il y a Sabrina Philippe la semaine du jour de l'an. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours, à 7h12 sur Europe 1.
Europe 1.
Et il est 7h17, restez avec nous sur Europe 1. À suivre, Nico Saliagas.
On va vous parler de simples petits cahiers mis à disposition depuis quelques jours dans de nombreuses mairies de France, avec un objectif tout simple, faire remonter au gouvernement la parole des citoyens. Et vous allez voir, ça marche. Que contiennent ces premiers cahiers de doléances qui ont été récoltés ? Bilan à suivre dans Europe 1 va plus loin dans quelques instants. Bon réveil à tous, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Il est 7h19, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
D'abord, l'arrestation à Djibouti du djihadiste français Peter Chérif, proche des frères Kouachi. Il pourrait être le commanditaire de l'attentat contre Charlie Hebdo. Les députés adoptent les mesures d'urgence du gouvernement pour répondre à la crise des gilets jaunes. Prime exceptionnelle pour les salariés, heures sup défiscalisées. Pas de hausse de la CSG pour les retraités modestes. Le texte passe aujourd'hui devant le Sénat. Et puis coup de tonnerre à Washington. Le torchon brûle entre le chef du Pentagone et Donald Trump. Le ministre de la Défense démissionne du gouvernement. Jim Mattis désapprouve le retrait des troupes américaines de Syrie.
Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au cahier de doléances mis à disposition des Français dans les mairies pour exprimer leur colère.
Pour exprimer leur colère, les maires sont appelés à la rescousse. Ils sont au cœur de l'organisation du grand débat national souhaité par le président de la République. Et depuis 10 jours, dans les mairies, les habitants sont invités à venir remplir des cahiers de doléances. Voilà, à l'heure d'Internet, on revient au bon vieux cahier. Bonjour Justin Morin de la rédaction d'Europe 1.
Bonjour Nicolas, bonjour
Justin,
à tous.
Justin, vous avez enquêté sur ce dispositif. Et apparemment, c'est un succès. L'Association des maires ruraux de France a déjà recueilli des dizaines de milliers de témoignages.
Oui, je vous emmène à Méricourt. C'est un village de 400 habitants dans les Yvelines. Mmh. Ici, c'est le Far West de l'Île-de-France. C'est le maire qui l'appelle comme ça. On est à 70 km de Paris. Pas grand-chose à vol d'oiseau, mais impossible d'y vivre sans voiture. Le téléphone passe quand ça lui chante. Internet aussi. Les gilets jaunes sur les pare-chocs, ça n'a pas échappé au maire Philippe Gesselin. Il a donc décidé naturellement d'installer un simple cahier à grands carreaux sur le comptoir de sa mairie. Paroles d'habitants lues par leur maire.
Isabelle, 45 ans. J'ai l'air d'une vieille car je n'ai pas les moyens de prendre soin de moi. Je n'ai plus rien passé le 20 du mois et ma banque me colle des frais tous les mois. J'ai 55 ans, tous les matins je me lève à 5h10, je touche 945 euros par mois. Et oui, je travaille pour 945 euros par mois. C'est de plus en plus difficile de vivre dignement. Il faut sauver les retraites et penser aux infirmières et aux instituteurs. Merci monsieur le maire. Ma retraite, c'est pas au SMIC. Je me bats pour mes enfants, ma fille gagne 1100 euros par mois, avec 5 ans d'ancienneté chez Carrefour Flin, elle ne s'en sort pas. Quand tout est payé, il ne reste rien.
Et il pourrait continuer comme ça longtemps. Hein. Tout une soixantaine d'habitants sont venus sur 400. C'est déjà beaucoup
c'est
pour ce maire.
J'ai appris que, en fait, la misère était encore plus ancrée que je ne l'imaginais. Et pourtant, je suis près de mes habitants. Mais vous savez, la parole se libère rarement. Moi, j'ai jamais d'habitants qui viennent pousser la porte de ma mairie pour me réclamer de l'argent. Ça n'existe pas dans les communes rurales. La misère, elle est silencieuse chez nous. On paye là 40 ans d'abandon, en fait.
Et après cette initiative de Philippe Gesselin, des milliers d'autres communes lui ont emboîté le pas en ouvrant leur propre cahier de doléances.
On a beaucoup dit pendant la crise des Gilets jaunes, on ne nous écoute pas. Ben là, on entend clairement la parole des Français qui expriment. Et il a fallu faire un travail de synthèse pour obtenir un premier bilan. Et ce n'est pas fini, c'est un gros boulot au siège de l'association des maires ruraux à Lyon. Notre correspondant Jean-Luc Bougeon a suivi ce travail de fourmi. Et visiblement, Jean-Luc, les retours sont colossaux, c'est ça?
Ah oui, ce sont des milliers de feuilles remplies de doléances et de propositions qu'il faut traiter chaque jour. Alors pour l'instant, on s'est concentré sur seulement 3000 communes, mais déjà, les bénévoles de l'association sont absolument dépassés par ce flux exceptionnel. Alors sur la méthode, on épluche chaque écrit, on classe les doléances en 12 thèmes, justice sociale ou fiscale, transport et mobilité, emploi, services de proximité. On note aussi le ton employé, la façon de dire les choses, et c'est parfois très surprenant, raconte Pierre-Marie Georges de l'association des maires ruraux.
On a des fiches d'imposition qui ont été déposées dans les cahiers de doléances, c'est-à-dire voilà ma réalité, voilà mes revenus, voilà ce que me coûtent mes déplacements au quotidien. Ça témoigne de quelque chose de très sensible. Il y a la volonté d'exprimer un mal-être vécu au quotidien par les gens.
Voilà, et dans ces milliers de feuillets, il y a par exemple un thème récurrent où se cristallisent beaucoup de problèmes, explique Marie-Jeanne Béguet, vice-présidente de l'association des maires ruraux.
Une chose qui revient beaucoup, je pense aux déplacements. Certains disent, on se sent loin de tout, on nous dit d'aller travailler en transport en commun, mais il n'y a pas des transports en commun, les trains ne sont pas assez c'est cadencé, il n'y a plus de car, enfin, etc. Donc c'est vraiment une question qu'il faut que nous prenions vraiment à bras le cœur.
Voilà un thème qui était régulièrement remonté depuis des années par l'association, mais sans aucune écoute du côté des gouvernants. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'oreille de Paris est beaucoup plus attentive.
Voilà, Paris écoute la voix des Français, ok, Justin Morin, mais comment s'assurer que ces cahiers de doléances ne vont pas rester lettre morte au fond d'un tiroir, dans un ministère, et que ce n'est pas une opération de com'?
Eh oui, c'est la question des habitants à laquelle les maires doivent répondre sans cesse. Ce qu'on peut vous dire déjà ce matin, c'est qu'il y a un calendrier établi. D'abord, un premier document de synthèse issu de ces cahiers doit être remis au Premier ministre Édouard Philippe ce matin. Un autre plus fourni début janvier. Et puis l'association des maires ruraux ne veut pas s'arrêter là. Elle est en contact avec plusieurs laboratoires universitaires afin de publier une étude beaucoup plus complète sur ce cri des territoires. À Matignon que nous avons contacté, on nous promet aussi que le grand débat national dont les contours sont pour le moment assez flous s'appuiera sur ces premières remontées. Preuve affichée de cet intérêt, le Premier ministre Édouard Philippe sera aujourd'hui dans le Limousin auprès des maires ruraux pour parler de ces cahiers de doléances.
Au-delà des mots, des actes maintenant. C'était Justin Morin de la rédaction d'Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est signé aussi Yasmina Katou et Jean-Luc Bougeon. Merci pour ce reportage très intéressant. Europe 1 va plus loin. Eh bien, c'est tous les jours sur notre antenne à 7h20.
Si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone au 3921 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1,
il est 7h24.
À suivre l'innovation du jour avec Anis Mbida. Il arrive et dans sa hotte ce matin, il a des sapins qui s'illuminent de façon naturelle, sans électricité, sans guirlande lumineuse. Je ne sais même pas s'il y a des boules.
Ben oui, on va voir.
Ben on va voir, il arrive. À tout de suite.
Il est 7h25.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anis Mbida, Nicolas Aliagas.
Eh oui, c'est bientôt Noël dans quelques jours et beaucoup d'entre vous ont déjà préparé leur sapin. Hein, j'imagine, Céline, Anis.
Ah oui.
Bah, le mien aussi, comme tout le monde. On essaye, orné de traditionnelles guirlandes lumineuses. Et cette petite boule étincelante. Mais Anis, vous nous dites ce matin que tout ça, c'est bientôt fini. Parce que les sapins de demain pourront s'illuminer naturellement, sans électricité. Vous carburez à quoi, mon cher ami?
Je carbure à une potion magique qui a été développée par les chercheurs du MIT aux États-Unis. C'est une petite potion qu'on met dans un spray. Et ensuite, on la pulvérise sur le sapin. Et dès que la nuit tombe, pouf, il va s'éclairer progressivement comme une lampe. Pas d'électricité, pas d'ampoule. C'est le sapin lui-même qui devient lumineux.
Ah d'accord, donc c'est phosphorescent, c'est quelque chose de...
Presque. En fait, il y a une substance à l'intérieur. Dans leur potion, il y a une substance qui utilise la même substance qu'utilisent les lucioles pour éclairer la nuit. Ils l'ont glissé, cette substance, dans des micro-capsules qui sont absorbées par les feuilles et ensuite qui arrivent dans la sève. Alors, c'est pas la première fois qu'on essaye de rendre les plantes lumineuses. Jusqu'ici, on le faisait plutôt par manipulation génétique, hein, mais ça n'avait jamais vraiment fonctionné.
Le ver luisant, les lucioles, ce genre de choses.
On prend des gènes de ver luisant, on les met dans les plantes, mais ça n'a jamais fonctionné. Alors qu'avec la potion
du MIT. Ça y est, ça marche. Bon, ça clignote pas encore comme de toutes les couleurs comme Céline qui est à côté de moi qui a un pull qui clignote dans tous les sens.
Regardez sur europe1.fr le pull de Céline Costa.
Mais ça peut déjà illuminer quasiment n'importe quelle plante et ça va permettre quoi ? Eh bien, par exemple, de transformer tous les arbres d'une rue en réverbères pour nous éclairer la nuit.
La question qui se pose, est-ce que c'est assez puissant ?
Alors, pour le moment, pas encore. Hein. C'est l'équivalent d'une petite veilleuse. Donc, pour un sapin, ça ira, mais pour les platanes, ça donnerait plutôt un effet illumination de Noël, un peu comme dans les films Avatar. Okay. Mais ça, c'est un problème qu'ils pensent régler très rapidement. Et s'ils y arrivent, ça ferait faire des sacrées économies. Parce qu'on le rappelle, 20% de l'électricité mondiale est aujourd'hui consacrée uniquement à l'éclairage des rues et des appartements, etc.
C'est beaucoup. Anissa Mbida, l'innovation qui illumine vos boules de Noël. C'est tous les jours à 7h25. Merci Anissa. Joyeux Noël.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Accompagnement, soutien financier. Avec les prix EDF Pulse, EDF met en lumière les startups qui inventent notre avenir électrique. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Mon cher Laurent Cabrol. Oui. Ça va mieux la voix ? Vous avez fait des gargarismes ?
Bah, je suis en train de broyer le sel pour l'instant.
Oh. Ouais, non, mais il ne faut pas
il
le manger.
Il va fondre dans l'eau.
À vous le broyer d'abord. Écoutez, vous avez un bloc de sel que vous êtes allé vous-même
cueillir. Non, j'ai broyé le sel que vous m'avez donné et puis avec ça, j'essaie de respirer, d'inhaler.
Allez.
Enfin, je ne suis pas trop efficace.
Hein. Mais non, vous avez le souffle inépuisable. On vous écoute, mon cher ami.
Bah, écoutez, tout se confirme, je dis à nos amis, tout se confirme en ce qui concerne les fins de cette fin d'année. Nous allons avoir là une période pluvieuse. Aujourd'hui, c'est vraiment très pluvieux, malheureusement. Nous aurons quand même quelques éclaircies cet après-midi sur l'Occitanie, la Gironde, les Landes, le Béarn, et des éclaircies ou en temps sec sur la Provence, la Côte d'Azur et les Alpes du Sud. Mais ailleurs, ce sera de la pluie donc sur les deux tiers nord de la France. Et là, nous aurons un temps quand même qui sera dans l'ensemble très désagréable, y compris sur la capitale. Des températures aujourd'hui entre 11 et 15 degrés. J'y ça se confirme parce que demain, samedi, nous allons vivre une journée dans l'ensemble ponctuée d'averses. Dimanche, il en sera de même avec un petit peu plus de soleil sur les régions de l'extrême sud, mais de la pluie sur les régions du nord. Vous voyez que la pluie est bel et bien présente, ça évite pour ce Noël de 2018, mais heureusement, les températures restent douces et resteront douces pratiquement jusqu'au jour de Noël. Et en principe, quand même, mardi devrait faire beau, ou relativement beau sur la France, mais là, rien n'est confirmé. Et la semaine prochaine, ce sera un temps sec avec des brouillards, des brumes, mais pas de pluie, promis, juré, pour la semaine prochaine.
Pas de pluie, merci. Pas de pluie pour Noël, c'est ce que nous dit ce matin Laurent Cabrol.
À suivre, Nikos Aliagas.
Eh bien, Jean-Michel Apathy va revenir sur la revendication salariale en ce moment. Tout le monde demande quelque chose, un bonus, une augmentation. Entre 120 et 150 euros net, les salaires augmenteront en 2019. C'est ce qu'ont obtenu les policiers. On vous dira aussi que parfois, notre antenne peut rendre des services de façon pudique et de façon humaine. C'est l'histoire d'Emma, une maman qui élève seule sa fille handicapée. On en a parlé dans nos éditions. Cette semaine, eh bien, un auditeur a téléphoné, Jean-Jacques, et il met à disposition des sous pour cette famille, pour cette mère qui se bat toute seule avec son enfant malade. On vous raconte l'histoire dans un instant, sans pathos, à vos côtés. Bon réveil à tous.
Une belle matinée sur Europe 1 ce vendredi 21 décembre, il est 7h30.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal de 7h30 vous est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Acte 6 des Gilets jaunes, le château de Versailles va être préventivement fermé demain. Un appel à manifester a été lancé sur les réseaux sociaux. Le dispositif d'encadrement de la mobilisation va être dévoilé tout à l'heure par la préfecture. Nouveau coup dur pour les commerçants alors que beaucoup effectuent leurs achats ce dernier week-end avant Noël. Écoutez Jean-Luc Voileroux, directeur du restaurant Le Pavillon Colbert situé juste à côté du château.
Le château de Versailles, c'est quand même un lieu attractif, donc un apport de monde. La clientèle ne viendra pas, parce que les gens ont peur quand même. On sert entre 90 et 100 personnes le samedi soir. D'habitude, on a toujours une quarantaine de couverts qui est déjà réservé pour samedi. Là, on a simplement deux tables et terminé. En même temps, nous avons un hôtel, on est pratiquement toujours complet.
Et là, pour samedi, si vous regardez, il reste des places ?
Oh bah oui, plein. On a 23 chambres ici, mais on en a plus de la moitié qui est libre. C'est une perte de clientèle aussi de ce côté-là. Je pense que c'est une perte de 4 000 euros à peu près, facilement, 4 000 à 5 000 euros sur la journée du samedi.
Jean-Luc Voileroux avec Jean-Jacques Herry pour Europe 1. 153 voix pour, 9 contre, 58 abstentions. Cette nuit, les mesures d'urgence pour répondre à la crise des Gilets jaunes ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Prime exceptionnelle ou encore heures supplémentaires défiscalisées. Le texte examiné en procédure accélérée va passer au Sénat aujourd'hui. Et puis, après les policiers, les fonctionnaires aimeraient eux aussi que leur salaire soit revalorisé. Les syndicats ont rendez-vous à Bercy pour réclamer la même prime défiscalisée que les salariés du privé.
Quand le président de la République, Emmanuel Macron, répond à la pétition à l'origine de la mobilisation des Gilets jaunes.
Vous avez raison, a écrit le chef de l'État sur le site change.org, pétition lancée par Cécilia Ludowski. L'action contre le réchauffement climatique est un combat nécessaire, dit Emmanuel Macron, mais il ne doit pas opposer les problèmes de fin du monde aux problèmes de fin de mois. Fin de citation.
Et c'est une conséquence inattendue des opérations menées par les Gilets jaunes au péage. Certains transporteurs dénoncent la surfacturation de leurs trajets.
Oui, c'est vrai que des péages n'ont pas détecté le passage de certains camions à l'entrée ou à la sortie. Résultat, ils doivent payer le prix fort. L'Organisation des transporteurs routiers européens monte au créneau. Jean-Marc Rivera en est le secrétaire général.
Dans la mesure où le badge n'a pas fonctionné ou à l'entrée ou à la sortie, eh bien, automatiquement la facturation tombe sur ce qu'on appelle le trajet le plus lourd. Nous avons de très fortes remontées de toutes les régions sud-est et sud-ouest de la France qui correspondent quand même, il faut le dire, sur les régions qui ont été très très impactées par les différents barrages des Gilets jaunes et les actions sur les autoroutes et les barrières de péage. Nous sommes aujourd'hui tout à fait ouverts à pouvoir discuter avec les sociétés d'autoroutes pour voir quelles solutions ils nous proposent sur ce problème-là. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que les entreprises ne peuvent pas être les victimes d'une situation qu'elles n'ont pas voulu et finalement qui sont liées à des contraintes ou des dysfonctionnements pour lesquels elles n'ont pas cherché à filouter les sociétés d'autoroutes.
Jean-Marc Rivera sur Europe 1. La patiente décédée à l'hôpital Ariboisière était considérée comme sortie de l'hôpital. Quand elle a été appelée, elle n'a jamais répondu. Une enquête interne en plus de celle du parquet de Paris a été ouverte. Les conclusions sont attendues début janvier.
Europe 1, il est 7h33.
Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Le djihadiste français Peter Sherif a été interpellé à Djibouti au nord de l'Éthiopie par la police française.
Il est soupçonné d'être le commanditaire de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Son arrestation remonte à dimanche dernier. On l'a appris que tard hier soir. Il a été placé en garde à vue et devrait être transféré en France. Écoutez, Gérard Chelma, avocat des victimes et des parties civiles, il se réjouit de l'arrestation de Peter Sherif.
C'est une excellente nouvelle. On est toujours satisfait quand on se rend compte que les donneurs d'ordre, les marionnettistes, sont des gens qu'on peut atteindre. Peter Sherif, c'est un Français. Ce garçon était, dans l'enfance des frères Kouachi, extrêmement proche d'eux. C'est des gens qui viennent du même quartier. Et c'est lui qui a commandité, c'est-à-dire qui a donné l'ordre qu'on réplique aux journalistes de Charlie par cet attentat absolument épouvantable. Mais c'est quelqu'un qui va revenir en France, qui va voir un juge d'instruction, qui va être mis en examen, qui va être jugé. C'est-à-dire qu'on va opposer à un terroriste un processus de justice qui est quand même quelque chose de très satisfaisant.
Gérard Chelma sur Europe 1. Dans l'actualité également à l'étranger, Washington sous le choc après la démission du secrétaire à la défense Jim Mattis. Il plaidait en faveur du maintien de troupes américaines en Syrie. Donald Trump en a annoncé hier le retrait. Et puis nouveau rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. Il espérait être libéré sous caution hier. Cette nuit, le parquet japonais l'a de nouveau placé en garde à vue. Cette fois pour abus de confiance aggravé pour 48 heures. Si le patron de Renault est inculpé, il pourrait voir sa détention prolongée de 10 jours.
Déjà plus d'un million de signatures lancées par 4 ONG pour contraindre l'État à agir dans la lutte pour le climat.
Oui, plus d'un million de signatures en moins de 2 jours. Les 4 ONG, dont la Fondation pour la Nature et l'Homme et Oxfam France, ont déposé un recours en justice pour inaction face au changement climatique. La mobilisation, baptisée Affaire du siècle, tourne en boucle sur les réseaux sociaux. De nombreux Français l'ont visionnée.
C'est pour les obliger à agir, si ça peut permettre d'accélérer les choses.
On martèle les gens un peu avec le climat, enfin qu'il faut faire des efforts, etc. Et à côté, on a nos gouvernements qui ne font pas les efforts qu'il faut. Il y a beaucoup de paroles et pas beaucoup d'actes. Et aujourd'hui, on arrive à un point où on nous dit que c'est point critique et on n'a pas de réponse de nos politiques.
Ouais, j'ai vu la vidéo qui a été faite et c'est suite à ça que j'ai signé. Les engagements sont jamais tenus. Je pense que c'est peut-être un moyen de faire avancer les choses.
Non, j'ai pas vu. C'est la première fois que j'entends parler.
Et il y a 1 million de personnes qui l'ont déjà signé.
Bah normalement, c'est toute la planète qui doit signer parce que c'est l'enjeu du 21e siècle. Et on va payer le prix un jour ou l'autre. Il faut que les gens se mobilisent pour ça.
Voilà, propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois.
C'était le journal de Céline Kallmann. Vous me gardez une part de tarte au poire que vous avez participé. Je l'ai vue dans la rédaction, elle a l'air délicieuse. Merci et joyeux Noël.
Europe 1. Et il est 7h36.
Jean-Michel Apathy, les policiers ont obtenu gain de cause au terme de négociations qui ont été très serrées. Mais ils ont réussi, leur salaire va augmenter en 2019.
Négociations très serrées peut-être, mais ultra rapides. Il fallait à tout prix augmenter les policiers. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a guidé le gouvernement dans cette histoire ? C'est la peur.
C'est ce que vous disiez il y a encore quelques jours. Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous disiez que les policiers étaient les garants du fonctionnement de la République.
Et ça se paye.
Et voilà, ça coûte cher, mais bon, au moins, tout va bien pour l'instant.
Oups, ça je sais pas, mais en tout cas, ça se paye.
Jean-Michel Apathy sur Europe 1, dans quelques instants.
Il est 7h38, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel Apathy, le gouvernement et les syndicats de police ont conclu un accord. Très rapidement.
Hein. Oui, très.
Pourquoi?
Parce qu'ils ont peur. Le gouvernement a peur. Je ne sais pas si vous connaissez
un
ce
accord
film.
De hausse salariale.
Oui, de hausse salariale. Voilà, c'est ça, oui, pardon. Parce que quand on dit un accord, on n'a pas tout dit. Effectivement, les policiers vont être augmentés à partir de janvier prochain. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, Le salaire de la peur.
Évidemment.
1953, Charles Vanel.
Classique.
Yves Montand. Eh bien, l'augmentation des policiers, c'est le salaire de la peur. Parce que la peur, c'est le président de la République et le gouvernement qui la ressentent. 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre, les lieux de pouvoir, et notamment l'Élysée, auraient été envahis par les gilets jaunes si les policiers ne s'étaient pas interposés. Alors c'est le travail des policiers de s'interposer, bien sûr. Mais ils l'ont fait dans des conditions d'une violence extraordinaire,
inacceptable.
Inattendu absolument, inacceptable aussi en démocratie et avec lesquels nous avons été beaucoup trop complaisants. Le pouvoir a eu peur et le pouvoir a toujours peur parce que de ce point de vue, la menace de la violence portée par les gilets jaunes n'a pas disparu. Le pouvoir a eu peur de quoi ? Peur qu'une partie des policiers se solidarise avec les gilets jaunes. Le pouvoir a eu peur que la police manque à l'État. C'est extraordinaire d'imaginer ça parce qu'on en est là en France aujourd'hui. Donc, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a ouvert une négociation express mercredi. Mmh. Et hier, nous étions donc jeudi, le patron des Faux-Police, qui en a vu d'autres, disait sa surprise que ça a été aussi vite, qu'au fond, ça a été aussi facile. Mais l'important, c'était de conclure un accord. D'ailleurs, combien a-t-il coûté cet accord ? Christophe Castaner a dit hier, ça va coûter 70 millions au budget de l'État. Mmh. Les syndicats disent 160 millions. Alors, on s'en moque un peu de la différence. Mais ça dit bien que du côté du gouvernement, on n'a pas trop envie de faire les comptes parce que l'important, c'était de lâcher et de conclure l'accord. Est-ce que cet accord salarial avec les policiers peut inciter d'autres syndicats dans la fonction publique à revendiquer ? Oui, évidemment, mais ça n'a aucune importance pour le gouvernement. Il fallait rassurer les policiers. Il fallait garder les policiers du bon côté de la barrière. D'une certaine manière, Édouard Philippe, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont été mis devant le fait accompli. Cet accord salarial avec la police, c'est le contraire de la politique qu'ils mènent dans la fonction publique depuis mai 2017. Mais tant pis s'ils sont dans le
exception.
Bleu. Mais bien sûr. Et que le Premier ministre y voit les trains passer et il contrôle rien, eh bien c'est pas grave. L'essentiel, c'était de conclure cet accord salarial. Ce qui domine au sommet de l'État en cette fin de l'année, c'est la peur. La peur, ça a un coût, donc le salaire de la peur. En 1953, le salaire de la peur, c'était un beau film. Eh bien, en 2018, le salaire de la peur, c'est du mauvais cinéma.
Et pour aller encore plus loin dans cet univers cinématographique très imagé qui est le vôtre, Jean-Michel Apathy, il y a un autre titre cinématographique qui est
«
Peur sur la ville ».
Ah, peur sur la ville, peur sur la France, il y a de quoi faire de beaux films, oui.
Tous les jours, Jean-Michel Apathy s'exprime à 7h40, c'est son édito politique. À présent, c'est vous qui le dites. Vous me laissez vos messages quotidiennement sur le répondeur d'Europe 1 en 3921. Et les fonctionnaires ont rendez-vous ce matin à Bercy. On vient d'en parler, ils réclament la même prime défiscalisée que les salariés du privé. On entendait hier la réaction d'une fonctionnaire, c'était dans le journal de 7h30. Eh bien, cette demande a fait réagir Muriel de Saint-Sauveur en Haute-Garonne. On écoute son témoignage.
Oui, bonjour. Alors écoutez, bonjour. Là je suis furieuse. Je rappelle que le principe du fonctionnariat est en théorie de toucher un peu moins que le privé, mais d'avoir une chose inestimable, surtout à notre époque, c'est la sécurité de l'emploi avec tout ce qui va avec comme avantage. Je rappelle aussi à cette dame que c'est le privé qui paye une partie des retraites du public. Alors moi, ça ne me dérange pas que des gens aient des avantages. Je ne suis pas jalouse de nature, mais si au moins ils pouvaient les apprécier. Bonne journée, au revoir.
C'est vous qui le dites, c'est votre espace. Hein. Vous pouvez vous aussi, comme Muriel, réagir à l'actualité. Laissez votre message à Nikos Aliagas en nous appelant au 3921. Europe 1. Il est 7h42, Nikos Aliagas, à suivre.
Ce matin, je vais vous raconter une histoire. Celle d'Emma. Elle est maman célibataire. Elle élève seule sa petite Noémie qui est handicapée. Emma est désespérée, sans argent. Et puis elle s'exprime devant un micro Europe 1. Elle est diffusée dans nos éditions, sur l'antenne. Et il y a un auditeur, Jean-Jacques, qui va écouter son témoignage et qui va décider de lui venir en aide, tout simplement. Sans pathos, avec beaucoup de pudeur, on vous raconte toute l'histoire juste après ça. Après plus de 13 heures de débat, l'Assemblée nationale a voté cette nuit les mesures d'urgence du gouvernement pour répondre à la crise des gilets jaunes. Prime exceptionnelle ou encore heures sup défiscalisées. Le texte examiné en procédure accélérée passera dans la foulée aujourd'hui par le Sénat. Le djihadiste Peter Sherif, soupçonné d'être l'un des commanditaires de l'attentat de Charlie Hebdo, a été arrêté par la police française. Ça s'est passé à Djibouti. Il a été placé en garde à vue en attendant d'être transféré en France. Carlos Ghosn espérait être libéré sous caution aujourd'hui, mais le parquet japonais vient de l'inculper à nouveau, cette fois pour abus de confiance aggravé. Garde à vue de 48 heures avec détention de 10 jours en cas d'inculpation confirmée.
Europe 1. Nicolas Aliagas, nos auditeurs ont du cœur. Vous nous racontez ce matin une belle histoire de Noël, une histoire vraie.
Oui Céline, nous avons diffusé sur Europe 1 un reportage de François Coulon, notre correspondant dans l'Ouest, c'était mardi dernier. Et ce reportage dans lequel François nous racontait le quotidien d'Emma, il y avait cette maman de 30 ans qui est gilet jaune. Elle est aide-soignante, elle a dû mettre sa carrière de côté, entre parenthèses, pour s'occuper de sa fille et des difficultés que connaissait sa fille Cassie, 7 ans et handicapée. Ses revenus ont été divisés par 3, une situation de grande précarité. On écoute Emma.
Je suis passée de 2400 euros en couple à 700 euros en mère isolée avec mon enfant. Je suis censée pouvoir compter sur 160 euros de pension versée par le papa qui arrive aléatoirement.
Et vous faites comment alors pour vivre ?
Je ne vis pas, je survis monsieur. On va à l'essentiel et même l'essentiel est difficilement atteignable. Ma fille ne manque jamais de rien mais les repas pour moi c'est souvent que des pâtes. Pour les charges alimentaires, il doit me rester aux alentours de 120 euros. On survit.
Vous êtes dans quel état d'esprit ?
Je n'ai plus rien à perdre. Si je reste chez moi, de toute façon je sais que le découvert va augmenter, on va continuer à s'enfoncer jusqu'au jour où on ne pourra plus rien faire et qu'on va se retrouver à la rue.
Je ne vis pas, je survis, monsieur, répond Emma, notre journaliste, François Coulon. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Vous êtes auditeur de notre station. Vous avez entendu ce reportage lorsque nous l'avons diffusé en direct. Et le témoignage d'Emma vous a touché. Et vous vous êtes manifesté. Vous avez eu envie de prendre contact avec elle. Pourquoi ?
Oh ben parce que ce témoignage, je l'ai trouvé effectivement très émouvant, très touchant. On est face à quelqu'un qui a l'air d'une femme de caractère, qui est volontaire, qui est digne, qui s'exprime très clairement, qui n'est pas particulièrement revendicative et qui décrit une situation que j'ai trouvée insupportable. On peut dire les choses simplement, à pas manger à sa faim.
Mmh. Donc ça vous choque, ça vous concerne et vous l'appelez. Comment
oui,
se passe le premier coup de fil ?
Grâce à Europe 1, je suis rentré en contact avec elle. Je lui ai demandé comment je pouvais l'aider. Bah, assez simple, hein. Comment on peut aider, c'est en donnant de l'argent. Bon, elle était un peu réservée, très, très pudique et au fond très gentille. Et puis elle a bien sûr accepté et c'est ce que j'ai fait.
Et d'une femme qui ne demande pas, qui fait juste état de sa situation sur l'antenne d'Europe 1, puisqu'on parlait de la mobilisation des Gilets jaunes. Alors vous avez appris que la petite fille avait besoin de se faire opérer aux États-Unis, donc ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, et vous proposez de l'aider financièrement et de l'accompagner sur plusieurs mois, Jean-Jacques.
Oui, il me semble, après tout, quand on fait une rencontre comme ça, c'est bien pour les deux. Et je dois dire que j'étais ravi de l'aider. Il y a un côté qui n'est pas altruiste, qui est égoïste, finalement, parce qu'on reçoit quelque chose. J'en suis bien conscient et je me suis dit, dans le fond, c'est une rencontre. Après tout, la vie est faite de rencontres. Et autant essayer de développer une relation où je peux l'aider peut-être un peu plus longtemps.
En donnant, on reçoit quelque chose, c'est un bel acte. Vous ne donnez pas votre nom par pudeur ?
Oui, je n'ai pas fait ça. Bon, on m'a demandé de témoigner.
Tout le monde
ça
va vous appeler après. Hein.
Ça peut peut-être susciter des vocations, mais non, effectivement, oui, par pudeur si vous voulez.
Merci beaucoup Jean-Jacques, et bonne fête et bravo.
Bonne fête à vous.
Et avec nous depuis la Bretagne, et grâce à François Coulon qui rend cette liaison possible, la maman Emma est avec nous. Bonjour Emma.
Bonjour Nikos, bonjour Jean-Jacques.
Comment avez-vous réagi quand Jean-Jacques vous a contacté ?
Eh bien, comment j'ai réagi ? Dans un premier temps, j'ai été très très surprise et agréablement surprise, mais très 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 gênée parce que effectivement, comme vous l'avez justement dit, je témoignais sans attendre en retour.
Bien sûr, vous ne faites pas l'aumône, hein, c'est clair.
Voilà,
vous vous êtes exprimé, vous aviez la parole et vous vous êtes exprimé. C'est étonnant de se dire qu'il y a des gens qui vous écoutent et qui se sentent concernés par votre histoire personnelle et votre épreuve personnelle.
Exactement. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec les Gilets jaunes, c'est ce que moi j'ai découvert depuis maintenant presque 4 semaines, depuis un mois maintenant. Mm-hmm. C'est que là, il y a une solidarité, il y a une humanité qui se révèle. Et je ne pourrais jamais remercier suffisamment Jean-Jacques.
Votre petite fille, elle doit être opérée aux États-Unis.
Alors, petite précision, en fait, elle est opérée à Barcelone, en Espagne.
D'accord.
Voilà, elle a déjà subi une première opération à ses 3 ans qui lui a permis de marcher. Et la deuxième intervention, c'est pour compléter les effets bénéfiques de cette première intervention.
D'accord, pour aller plus loin.
Voilà, c'est ça.
Vous lui avez dit à Cassie
Ce qui s'est passé avec Jean-Jacques, oui, bien sûr.
Il y a un père Noël qui s'appelle Jean-Jacques.
Oui, je lui ai expliqué. Elle est très contente, excusez-moi. Elle est très contente. Bon, elle n'a que 7 ans, donc elle comprend les choses à sa hauteur. Mais elle a dit qu'elle voulait écrire une lettre avec moi pour remercier Jean-Jacques. Voilà.
Vous continuez à être mobilisée sur les ronds-points? Vous portez encore le gilet jaune?
Bien sûr. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas obtenu gain de cause. Personnellement, toutes les annonces qui ont été faites ne me touchent pas. Donc on continue et on ne va pas lâcher.
Où est-ce que vous allez passer Noël, Emma?
Eh bien, la question était en suspens jusqu'à ce que M. Jean-Jacques rentre en contact avec moi. Là, je pense qu'on va se regrouper un petit peu en famille, avec la famille proche, toujours dans le coin. Et puis, on va pouvoir faire un petit peu Noël version fête. Voilà.
Vous savez ce qui nous a touché? C'est qu'au-delà de la mobilisation des Gilets jaunes, de votre implication et puis de votre conviction et de votre colère, vous êtes une femme, comme des milliers de femmes, des millions de femmes qui nous écoutent peut-être ce matin, et qui n'a rien demandé, et qui a juste exprimé son désarroi, tout simplement. Et vous nous avez profondément touchés pour ça. Donc j'aime la pudeur que vous gardez avec Jean-Jacques, qui n'a pas donné son nom de famille, non pas par coquetterie, mais juste parce que c'est votre histoire maintenant. Nous sommes ici pour créer un lien, nous sommes ici pour faire en sorte que les auditeurs puissent se rencontrer. C'est votre histoire, j'espère que ça va aider Cassie. J'espère que ça va mettre un peu de baume au cœur de votre quotidien et j'espère qu'au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, de la situation tendue de ce pays, que votre histoire personnelle devienne une belle histoire et que vous trouviez l'harmonie tout simplement dans votre vie.
Merci beaucoup et je peux en profiter pour vous passer un petit message de Cassie, qui est très fan de vous sur certaines émissions que vous présentez, notamment The Voice.
Venez me voir, et même à Europe 1 ou sur TV, venez me voir, tout simplement.
On est là
aussi pour vous divertir ou on vous invitera, tiens. Si c'est compliqué pour vous, on fera en sorte que vous soyez avec nous, d'accord?
Merci, c'est gentil.
Bon rétablissement pour la suite.
Le journaliste local, M. Koumou, qui a rendu possible cette rencontre. Et Jean-Jacques, mille fois merci encore.
Et François Coulon.
Oui, c'est ça. François
et Coulon. Les réseaux sociaux, parce que ça a été aussi relayé. On dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a tout. Et il y a aussi des situations qui nous permettent de nous rencontrer, tout simplement,
exactement,
humainement. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Le plus
simplement possible. C'est aussi ça, la radio. On est content d'être à vos côtés.
Et vous avez raison, Nikos. Le lien continue sur Europe 1. Notre standard est le vôtre. Appelez-nous au 3921. Vous pouvez également continuer à nous envoyer vos messages avec le hashtag Europe 1 sur Twitter.
Europe 1.
Et il est 7h53.
À suivre le Zoom Echo avec Axel de Tarlé. Et si vous receviez cette année pour Noël un cadeau d'occasion, vous diriez quoi? Et puis dans le journal de 8h, on va parler sport, plus particulièrement rugby, car le rugby français entame une révolution afin de mieux protéger la santé de ses joueurs. Et Jean-Philippe Ballas vous prépare une petite histoire de Noël qui fait sourire et qui donne espoir. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil à tous si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.
Il est 7h54, l'heure du Zoom Echo. Nikos Aliagas avec Axel de Tarlé.
Axel de Tarlé, vous nous parlez de Noël, des cadeaux de Noël. De plus en plus, on s'offre des cadeaux d'occasion achetés sur Internet. Ça existe.
Oui, je ne sais pas si Nikos, vous avez fait vos cadeaux de Noël, mais de plus en plus, en effet, on achète d'occasion. Et surtout, ça n'est plus tabou. En fait, si on réfléchit, c'est Internet qui a changé nos habitudes. Et c'est vrai que quand on commande sur Internet, un DVD par exemple ou autre chose, on achète aussi bien son article à un vendeur professionnel qu'à un particulier, si c'est moins cher et que la qualité est bonne. Vous voyez, le e-commerce a totalement banalisé l'achat d'occasion, de seconde main. D'ailleurs, c'est prouvé, il y a un sondage de la FEVAD, c'est la Fédération du commerce en ligne, qui montre que 2 Français sur 3 ne voient aucun problème à offrir des cadeaux qui ont déjà servi. Et plus on est jeune, plus cette pratique est répandue.
Oui, et puis c'est dans l'air du temps, les achats d'occasion. On parle d'économie, ça s'appelle comment? L'économie circulaire.
Voilà, ça fait chic, on dit qu'on fait de l'économie circulaire, qu'on est éco-responsable. Mais c'est vrai que l'association Zero Waste, donc Zéro Déchet, fait remarquer qu'à Noël, près de 9 cadeaux sur 10 viennent de Chine et ont donc traversé les océans. Donc bonjour le bilan carbone. Des cadeaux qui, soyons honnêtes, pour la plupart, seront ouverts le jour de Noël, puis ranger dans un placard et oublier. Vous savez que 7 jouets sur 10 ne sont plus utilisés 8 mois après avoir été offerts. Et donc, vous voyez, ce grand déballage de Noël est de plus en plus perçu comme un grand gaspillage. En fait, C'est la tendance du moment qu'on observe un peu partout. On préfère consommer moins, mais consommer mieux. Et voilà comment dénicher, comment chiner sur Internet un cadeau qu'on ira chercher chez un voisin. Eh bien, c'est devenu un achat malin et non plus un achat radin. Alors, le grand bénéficiaire de cette tendance, c'est le site Le Bon Coin, qui voit son trafic multiplié par 3 en cette période juste avant Noël. Mais les enseignes traditionnelles, hein, Ikea, la Fnac, Camailleux, Leclerc, ont toutes développé des rayons qu'elles appellent rayons bonnes affaires, pour que les objets d'occasion, pour que les cadeaux de Noël aient une seconde vie, une deuxième chance de faire le bonheur
et
des enfants.
Pensez aux associations, à tous ceux dans votre propre quartier. On parle souvent de défendre des causes humanitaires à l'autre bout du monde. Il faut le faire aussi, mais parfois c'est juste notre voisin, notre propre quartier.
Emmaüs, si ça fait un label d'ailleurs.
Des vêtements, des jouets,
label d'occasion.
Faites-le, c'est le moment. Pas pour avoir bonne conscience, parce qu'aujourd'hui c'est nécessaire. Axel de Tarlé sur Europe 1, c'est tous les jours pour le Zoom Echo.
Et à 7h57, on passe à la petite histoire du jour avec Jean-Philippe Ballas, Nikos.
Eh oui, vous savez quoi, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous dites qu'on peut rester classe, même avec le bonnet du Père Noël sur la tête, même avec le t-shirt d'Axel de Tarlé, même avec le pull de Noël étincelant de Céline Lacosta.
Bon,
dites-nous tout.
On va se rassembler, absolument. On peut rester classe. Il y a une condition, une seule, Nikos, il faut s'appeler Barack Obama.
Ah ouais, bon.
Entendez-vous ces cris, ce tumulte? La scène se déroule dans un hôpital de Washington. L'ancien président vient d'apparaître là, au fond d'un couloir. Visite surprise avec une hotte sur le dos et donc un bonnet rouge, oui, celui avec le petit pompon blanc juste au-dessus. On va pas se mentir, moi avec le même, j'ai l'air d'un lutin dépressif. Mais avec lui, pas de problème, ça passe, ça lui fait un petit style. Blague à part, Barack Obama est là pour une bonne cause. Il vient livrer des cadeaux de Noël pour les enfants malades de l'hôpital.
Vous savez que j'ai deux filles. Et je peux imaginer à quel point ça compte pour tous ces enfants d'avoir des infirmières, d'avoir des médecins, des gens qui sont juste là pour eux, pour les écouter, pour leur tenir la main. Il n'y a rien de plus important.
Bon, on va pas verser dans l'idolâtrie.
Non, mais c'est la classe quand même.
Il faut reconnaître qu'il dégage quelque chose, Barack Obama, lorsqu'il prend les enfants contre lui. Il y a de l'empathie. Et en même temps, on n'a pas envie de lui taper sur l'épaule. Ça s'appelle avoir une certaine aura, avec ou sans bonnet. Vous savez quoi? Tiens, puisqu'on parle d'avoir la classe en toutes circonstances, et pour équilibrer un peu avec tous ces pulls de Noël d'un goût douteux que je croise depuis ce matin dans les couloirs d'Europe 1. Non, mais vous, Céline, ça va? Tout vous va, de toute façon. J'ai une petite chanson classe de Noël pour vous, les amis. C'est la voix de Monsieur Nat King Cole. Chestnuts roasting
on an open fire. Je remets une bûche dans la cheminée.
Volontiers.
Je vous sers un petit cherry.
Un petit vin chaud.
Après l'antenne peut-être.
Jean-Philippe Ballas, la petite histoire pour chanter la magie de Noël. C'est tous les jours sur Europe 1, juste avant 8h. Joyeux Noël, Jean-Philippe.
Joyeux Noël.
On va vous laisser à suivre le journal de David Doucan. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol. Il va être jaloux, hein, je vous le dis.
Et bonjour, monsieur l'hiver. Ça faisait longtemps.
Ah ben voilà.
Bienvenue sur notre terre, magicien tout blanc.
Magnifique.
Ouais, je suis de la note.
Et, oui,
et surtout, vous avez la voix qui revient maintenant. Ça
c'est
y
vrai.
Est.
C'est
la voix est claire, Laurent Cabrol. On vous écoute.
Ben oui, c'est l'hiver. C'est l'hiver aujourd'hui. Nous sommes le 21 et c'est aujourd'hui que le jour sera le plus court. Et la nuit la plus longue, nous allons passer maintenant, basculer vers des jours qui rallongent. C'est un petit espoir dans cet hiver qui arrive. Donc l'hiver est là avec de la pluie aujourd'hui. Il ne fera pas trop froid, même très doux. 11 à Dijon, 12 à Besançon, 13 à Toulouse, 14 à Lille, 15 à Paris, 16 à Marseille, 17 à Biarritz. Vous voyez que ce sont des températures quand même assez agréables, même très agréables pour la saison. Et puis nous aurons de la pluie sur une grande partie du pays, essentiellement la moitié nord, avec quelques éclaircies près de la Manche en deuxième partie de journée. Et puis un temps plus sec sur la Provence, la Côte d'Azur, les Alpes du Sud, et quelques éclaircies sur l'Occitanie, la Gironde, les Landes et le Béarn. Mais dans l'ensemble, sur Paris notamment, sur la Manche ce matin, sur le Massif central et Pays de la Loire, et bien ce sera un temps humide et pluvieux. Demain, ça sera un tout petit peu mieux, mais c'est encore bien désagréable.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Vous partez au travail, les enfants sont surexcités. On l'imagine à l'approche de Noël. Vous rêvez des vacances qui arrivent. Patience, restez zen, tout va bien. À l'écoute d'Europe 1. Il est 8h, très bon réveil.
Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
David Doucan pour le journal de 8h avec trois titres à la une ce matin. David, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. A-t-on mis la main sur le cerveau des attentats de janvier 2015 ? Peter Sherif, proche des frères Kouachi qui avaient perpétré le massacre de Charlie Hebdo, a été arrêté à Djibouti. Il sera bientôt transféré vers la France. Le principe du Père Noël, c'est qu'il prévoit des cadeaux pour tout le monde. Après avoir cédé aux demandes des policiers, comment le gouvernement pourra-t-il refuser d'augmenter les autres fonctionnaires ? Les syndicats de la fonction publique ont rendez-vous à 9h30 à Bercy. Et puis les dirigeants du rugby français sont actuellement reçus au ministère des Sports après le décès du jeune Nicolas Chauvin, joueur du Stade français. L'Ovalie est contrainte de se réformer.
Europe 1.
C'était l'un des djihadistes français les plus recherchés, Peter Sherif, soupçonné d'avoir fomenté l'attentat de Charlie Hebdo commis par les frères Kouachi, a été arrêté la semaine dernière à Djibouti. Cet homme, qui se fait aussi appeler Abou Hamza, sera bientôt transféré vers la France. Bonjour Alain Acco.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. D'abord Alain, qui est ce Peter Sherif et quel lien peut-on tisser entre lui et les tueurs de janvier 2015?
Alors c'est simple, ils ont tous appartenu à la même bande qu'on appelait la filière des buts de Chaumont dans le 19e arrondissement de Paris. Peter Sherif, père antillais, mère tunisienne, était l'un des principaux protagonistes de cette bande, l'un des modèles aussi, car lui, il est parti se battre en Irak avec Al-Qaïda contre les Américains. Il a été capturé à Fallujah, incarcéré dans plusieurs prisons, notamment à Abu Ghraib. Il s'est évadé, il a été à nouveau arrêté en Syrie, extradé en France. En France, après une longue période de détention provisoire, il a comparu libre à son procès pour l'organisation de filières en direction de l'Irak. Il s'est enfui au dernier jour de son procès, juste avant le jugement. Parti ensuite au Yémen, il est devenu là-bas l'un des principaux cadres d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et c'est là-bas que l'un des frères Kouachi est sans doute venu le voir en 2012. Ils ont ensuite entretenu des échanges internet, toujours en 2012. Mais ces échanges se sont interrompus et on n'a plus de traces ensuite de contact entre les frères Kouachi et Koulibaly et Peter Sherif.
Alors on nous dit que ce Peter Sherif ou Abou Hamza va bientôt être transféré en France. Ça veut dire qu'il va être jugé dans notre pays?
Alors ce qui est sûr, c'est qu'il va être extradé dès que possible, incarcéré pour à minima purger la peine à laquelle il a échappé, 5 ans de prison pour l'organisation de filières. Mais en revanche, à ce stade, il n'est pas question de le poursuivre dans le dossier de Charlie Hebdo. Ah. Les juges ont bouclé leurs investigations. 15 personnes sont poursuivies dans ce dossier, mais faute d'éléments probants, eh bien Peter Sherif n'en fait pas partie.
Merci Alain Acco pour ces informations.
Et l'attentat de Strasbourg nous l'a rappelé, la menace terroriste est toujours aussi forte dans notre pays.
Oui, sachez que 4 personnes sont actuellement activement recherchées, suspectées de préparer un attentat kamikaze dans un aéroport. Des repérages ont eu lieu aux abords de Roissy-Charles de Gaulle. Les 4 suspects seraient actuellement en Allemagne. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Berlin pour Europe 1. Le niveau d'alerte vient d'être relevé, Hélène, en Allemagne?
Oui, effectivement, contrôle renforcé partout, notamment dans les aéroports du pays et tout particulièrement les 4 qui se situent au plus près de la frontière française, Stuttgart, Karlsruhe, car c'est cette zone qui serait la cible des suspects recherchés dans le but de faire une attaque suicide à Noël. Les renseignements allemands ont reçu des informations concrètes de la part de leurs collègues marocains qui leur ont livré des noms, dont ceux de 3 islamistes que la police allemande avait en fait déjà dans le viseur depuis quelques jours. Il y a notamment un père et son fils, originaires de Rhénanie. Jeudi, il y a 8 jours, ils ont été vus à Roissy-Charles de Gaulle en train de prendre des photos du terminal 3. Ils se sont enfuis avant que la police aux frontières ne puisse intervenir. Leur fourgon blanc, immatriculé en Allemagne, appartient à un Marocain surveillé par la police allemande. Quelques jours plus tard, même scène à Stuttgart cette fois. Les caméras de surveillance de l'aéroport ont clairement permis de les identifier. Mais depuis hier soir, ils sont introuvables.
Merci Hélène Kohl, vous étiez en direct de Berlin. Pardon. Pour Europe 1, je vous annonce que l'aéroport de Gatwick à Londres vient de rouvrir pour un nombre limité de vols. Je vous rappelle que l'aéroport avait été fermé depuis hier
à cause des drones
d'après-midi parce qu'il y avait effectivement des drones qui survolaient les lieux. Aux États-Unis, le ministre de la Défense a démissionné. Jim Mattis a évoqué des désaccords profonds avec Donald Trump au lendemain de l'annonce du retrait militaire américain de Syrie auquel il était farouchement opposé.
Et puis, un nouveau coup de théâtre au Japon.
Oui, Carlos Ghosn reste finalement en prison. Un troisième mandat d'arrêt a été lancé contre lui, anéantissant ses espoirs de libération immédiate, cette fois sous le motif d'abus de confiance aggravé.
Europe 1, il est 8h05.
Les mesures d'urgence du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat ont été adoptées, ça y est.
Oui, les députés auront peu dormi. Ils ont voté à 4h30 du matin en faveur de la défiscalisation des heures supplémentaires, l'exonération élargie de la hausse de la CSG, la prime exceptionnelle sans aucune taxe pour les entreprises. Et on n'oublie pas la prime d'activité, augmentée de 100 euros, c'était dans le cadre du budget. Tout cela coûtera entre 10 et 15 milliards d'euros. Le problème, c'est qu'il est difficile d'offrir des cadeaux de Noël aux uns et pas aux autres. Après l'obtention par les policiers d'une augmentation de salaire, les autres fonctionnaires, naturellement, en attendent autant. Les syndicats de la fonction publique sont reçus à 9h30 ce matin à Bercy. Cela va être compliqué pour le gouvernement de leur expliquer que ce ne sera pas possible. Aurélie Herbemont.
Quand on a cédé une fois, comment résister ensuite? C'est une bonne question, souffle un conseiller ministériel qui ajoute « On ne peut pas laisser penser qu'on rase gratis ». Le gouvernement a desserré les cordons de la bourse pour les gilets jaunes et les policiers, mais les fonctionnaires qui arrivent tout à l'heure à Bercy ne devraient pas obtenir gain de cause. Une prime pour tous? Insoutenable pour le budget de l'État, martèle un conseiller. À Bercy, on compte expliquer aux fonctionnaires qu'ils ne sont pas oubliés par les mesures d'urgence. La prime d'activité, étendue de 400 à 600 000 agents publics, la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires. Il y a une nécessité de prendre en compte les contraintes budgétaires, dit un proche du Premier ministre, qui ironise sur cette marotte du vilain Matignon techno. Une fermeté affichée et en même temps une volonté de ne pas apparaître juste comme des comptables. Un parlementaire s'inquiète. Le toboggan est ouvert. Tous les jours, quelqu'un va réclamer quelque chose maintenant.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et l'invité politique d'Europe 1 à 8h15 est la secrétaire d'État pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, répondra aux questions d'Audrey Casbomar.
Par ailleurs, sachez que le président de la République a répondu sur la plateforme change.org à la pétition, vous vous en souvenez sans doute, qui avait tout déclenché, celle de Priscilla Ludowski.
La première.
Vous avez raison, peut-on lire sous la plume d'Emmanuel Macron votre message? Je l'ai entendu.
Votre matinale info, Nico Saliagas.
Eh bien, c'est la suite du journal de David Doucan. Et trois jeunes joueurs de rugby sont morts ces 7 derniers mois. Et ce n'est pas rien, c'est grave. Et suite à des chocs reçus sur le terrain, oui. Que faire?
Cela peut-il continuer comme cela? C'est la question qu'on se pose. Après le décès la semaine dernière du joueur du Stade français Nicolas Chauvin, Bernard Laporte, le patron de la Fédération française de rugby, a annoncé hier qu'il voulait obliger les joueurs à se baisser avant de plaquer, afin de ne plus taper au niveau du buste. C'est un changement radical de jeu. Jérôme Lacroix, bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes notre journaliste du service des sports d'Europe 1. C'est là, Jérôme, tout l'enjeu de la réunion qui est en train, en ce moment même, de se dérouler au ministère des Sports. Roxana Maracineanu reçoit les dirigeants du rugby français. La difficulté, Jérôme Lacroix, ce sera de faire accepter ce changement au niveau mondial,
oui,
c'est bien cela?
Et toutes les aides seront les bienvenues parce qu'on parle là, David, d'un changement majeur. Ce que propose ce rugby français à la Fédération internationale, c'est de changer la règle du plaquage. Il serait interdit de plaquer au-dessus du niveau de la ceinture aujourd'hui. Alors oui, c'est spectaculaire parce que c'est autorisé jusqu'aux épaules avec risque de choc au cervical et de commotion cérébrale. Alors pour les professionnels, voilà le problème, il faut l'aval de la Fédération internationale, mais là tout de suite avec la ministre, ça discute d'appliquer la règle au monde amateur, comme un laboratoire pour tester, et c'est aussi le signal peut-être dont le grand public a besoin face à un sport qui semble sombrer dans une dérive violente. C'est ce que dénonce Sébastien Dalgalarondo, sociologue, chercheur au CNRS.
Des collisions, ça fait vendre, hein. On se souvient de Chabal, la chabalisation du rugby quelque part, c'est ça, hein. C'est, on préfère une grosse collision entre deux monstres qu'une belle passe, voilà, donc le rugby a changé, il a perdu un peu son âme, il y a des logiques financières, hein, il faut préserver le spectacle et la pub qui se vend avec.
Et la Fédération internationale devra trancher vite, parce que la prochaine Coupe du Monde, l'immense rendez-vous, c'est dans 9 mois.
Merci à vous Jérôme Lacroix pour ces précisions.
Nous l'avons tous en tête. Dans 3 jours, eh bien, c'est le réveillon de Noël.
Et oui, avec pour bon nombre de nos concitoyens la volonté de se régaler avec des menus et des produits de qualité. Alors les commerçants de la région parisienne passent leur nuit dans le plus grand marché de France, à Rungis, pour pouvoir répondre à la demande. Reportage signé Pierre Herbulot.
Tenir ses commandes, c'est l'obsession de Pascal Placé, propriétaire de plusieurs boucheries en région parisienne. Dans sa main, une liste de courses à n'en plus finir.
Des chapons, des dindes, des oies, des patates chaponnées, des mini-chapons, des poularnes, des plomeresses, du gibier, des sangliers.
Et là, attendez, vous achetez 30 cailles ?
C'est 30 colis.
C'est-à-dire ?
Bah 300.
En nombre de dindes, ça fait combien là ?
48, 60, 90, 360. Ouais.
360 dindes ?
Ouais, pour aujourd'hui, ouais.
Il est 5h12 du matin quand Alain, volailler à Paris depuis 40 ans, étudie une pile de foie gras.
Ah bah là, il me faut du foie gras absolument parce que j'ai pas mal de commandes en foie gras. Et là, j'essaie de négocier à droite à gauche parce que c'est pas facile. Hein. Il y a des camions qui sont pas arrivés, tout ça, alors donc c'est pas facile de négocier.
Voilà, dis-moi.
T'as du ferme phalange ?
Encore en cru ?
Ouais. Des bénets ?
Bien sûr. Extra ? Premier choix, nature.
Non, après, non, mais il me faut de l'extra.
T'en
faut
combien ?
Bon, tout ça, une boîte.
Allez, vendu.
Il lui manque encore des cuisses de canard confite. Alain repart quand même avec plus de 600 kilos de volaille. Tout juste de quoi tenir jusqu'au lendemain matin.
Reportage délicieux, signé Pierre Herbulot pour Europe 1.
Attention aux crises de foie. Hein. Bon, allez. C'était le journal de David Doucan. Bonne fête, David.
Merci à vous aussi. Bonne journée.
La matinale d'Europe 1.
Nikos Aliagas.
Il est 8h12, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale à présent avec Vincent Hervouet, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouet, dans moins de 100 jours, c'est le Brexit. Et le divorce risque d'avoir lieu sans qu'il y ait un accord entre Londres et les Européens. Et on prend désormais au sérieux le pire des scénarios.
Le scénario catastrophe. Ouais. Bien, les Britanniques viennent d'en avoir un avant-goût avec la paralysie de l'aéroport de Gatwick près de Londres. Mercredi, deux drones mystérieux ont été repérés au-dessus de la piste. Les avions sont restés cloués au sol. 110 000 passagers obligés de camper sur place ou de retarder leur voyage. Et l'armée mobilisée pour débusquer les pirates de l'air. Alors les Britanniques ne sont pas préparés à cette pagaille. Ils n'ont pas notre expérience des grèves d'Air France à la veille des vacances. Mais ce chaos, c'est la répétition générale de ce qui risque de leur arriver le 29 mars. Avec le Brexit, c'en sera fini du ciel unique européen, ce système qui mutualise la gestion du trafic. Et conséquence, au premier jour du printemps, s'il n'y a pas d'accord, eh bien, les avions britanniques ne pourront plus passer au-dessus de nos têtes. Il faudra que Londres négocie avec chacun des pays survolés. Le Brexit sec, brutal, le divorce en claquant la porte, le no deal, ce n'est pas la fin du monde, mais ça rend le monde plein de casse-tête pour les voyageurs, les financiers, les éleveurs, les routiers, les étudiants, les plombiers polonais ou même les ratons laveurs, car les services vétérinaires seront débordés à la frontière.
Mais concrètement, Theresa May espère encore faire voter par les communes l'accord qu'elle a négocié avec la Commission.
Le pire qui soit, le seul possible à prendre ou à laisser, le vote est programmé à la mi-janvier, trop tard pour renégocier ou tenter un nouveau référendum. Elle joue la montre, c'est elle ou le chaos, dont Gatwick donne l'avant-goût comme un cadeau de Noël. Alors de son côté, la Commission européenne commence à réaliser la fatalité en marche. Il devient urgent de se préparer à ce qu'elle appelle un non-accord par accident. L'accident, c'est la démocratie, le vote des communes. La Commission propose donc 14 mesures urgentes. Par exemple, que le ciel européen reste ouvert un an de plus. Lentement, elle sort du déni, comme quoi le pire n'est jamais certain, même avec Theresa May.
Vincent Hervouet, c'est le point de vue sur l'actualité internationale, quotidiennement sur notre antenne dans la matinale d'Europe 1.
Europe 1, mais il est 8h15.
Dans deux minutes, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Qui est votre invité ?
Écoutez, elle est toujours en première ligne pour défendre un président qui fête aujourd'hui ses 41 ans et qui se prépare une 42e année pas facile. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes et à la lutte contre les discriminations, sera mon invitée.
Elle vient de s'installer dans notre studio. A tout de suite, on a hâte de vous écouter.
Il est 8h17, Nikos Aliagas.
La secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, et votre invitée, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Emmanuel Macron répond lui-même en ligne sur Internet à la pétition des Gilets jaunes sur les prix des carburants qui a recueilli plus d'un million de signatures. Il leur dit « Vous avez raison ». C'est pas un peu beaucoup dans la contrition là ?
Non, je crois pas. Là, je pense qu'on voit le président de la République, Emmanuel Macron, tel qu'on le connaît.
Bientôt en gilet jaune.
Non, mais tel qu'on l'a connu pendant la campagne présidentielle. Quand on a fait cette campagne avec lui ou qu'on l'a suivi, on sait qu'il est comme ça. C'est mais quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la réponse, dans la discussion, dans l'échange avec les autres.
S'ils avaient raison, les gilets jaunes, pourquoi faire la politique que vous faisiez ?
Alors le président lui-même a dit qu'il y a des choses que nous avons faites qu'il a qualifiées d'erreur. Il a dit que ce n'était pas juste, je pense à la CSG par exemple, la hausse de la CSG pour les retraités. Il a dit lui-même l'effort qui était demandé aux retraités était trop important, il n'était pas juste.
Et pourquoi l'avoir fait alors ?
On fait des erreurs.
Mais vous avez raison de dire ça aux Gilets jaunes. Quand la com ressemble à de la com, ce n'est pas contre-productif.
Moi, je crois qu'on l'accuse toujours, le président, mais ce n'est pas lui personnellement. C'est la Ve République, les institutions de la Ve République qui sont faites ainsi. Mais tout est la faute du président. Il pleut, c'est la faute du président. Le président
c'était
s'exprime
le précédent,
pas.
Celui-là. Voilà, là où...
Très bien. Il ne s'exprime pas. On dit qu'il ne s'exprime pas, qu'il est silencieux, qu'il boude, qu'il méprise. Il s'exprime. On dit, ah, c'est de la com. Moi, je crois qu'il est naturel comme on le connaît et je pense qu'il dit ce qu'il pense et il est sincère dans ce qu'il dit.
Le président donc fait amende honorable sur Internet et le Premier ministre part à la rencontre des Gilets jaunes tout à l'heure. Est-ce qu'il ne va pas mettre un gilet jaune tant qu'on y est là ?
Écoutez, je pense pas, enfin, sauf s'il a un accident et qu'il est au bord de la route, puisque c'est l'utilité première, théoriquement, des gilets jaunes. Mais moi, je crois que c'est assez simple. Vous savez, ça fait des semaines que j'ai rencontré des gilets jaunes, que je suis allée à la rencontre de gilets jaunes en Sarthe ou ailleurs. Le Premier ministre, d'ailleurs, lui-même, avait ouvert les portes de Matignon pour rencontrer des gilets jaunes. Donc là, on est dans la poursuite de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le gouvernement a toujours été dans cette position de dialogue, en tout cas ces dernières semaines.
Oui,
là, ça se concrétise.
Pas au début, hein.
Tant mieux. Ces dernières semaines, en tout cas.
Marlène Schiappa, vous avez reconnu que le mouvement des Gilets jaunes avait donné une grosse leçon d'humilité collective au gouvernement. Donc Gérard Collomb avait raison lorsqu'il disait qu'Emmanuel Macron, que les uns et les autres, vous étiez aveuglés par votre manque d'humilité.
Je ne serais pas aussi fort, je ne dirais pas qu'on a été aveuglé, mais je dirais qu'on a peut-être péché par excès de confiance, par excès d'orgueil, en se disant on a raison, ce qu'on fait est bien, donc on va le faire. Et voilà, tant pis pour les ressentis. Mais je pense que la politique, c'est avant tout s'occuper du ressenti des gens. Si les gens, dans leur globalité, dans leur majorité, nous disent qu'ils ne ressentent pas les effets de notre politique, c'est qu'il faut modifier des choses, donc c'est ce que nous faisons.
Gérard Collomb ajoutait, quand à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, vous pensez que vous allez tout emporter. Tellement sûr de tout emporter que vous êtes amené à faire une politique inverse à celle que voulait faire Emmanuel Macron, creuser le déficit, laisser filer les dépenses publiques.
Moi, je crois que sur le fond, on est exactement, au contraire, dans les engagements de campagne.
Non, mais là, c'est l'inverse de ce que vous vouliez faire. Vous creusez le déficit, vous laissez filer les dépenses publiques.
Non, justement, moi, je crois qu'il faut renouer avec l'ADN d'En Marche et notre urgence au gouvernement. Je crois que c'est renouer avec la bienveillance et l'écoute et ce qui a caractérisé l'ADN d'En Marche et l'ADN de la campagne présidentielle.
Mais concrètement, vous creusez le déficit et vous laissez filer les dépenses publiques.
En ce qui concerne le déficit, moi, je crois qu'il faut être très clair. Quand il y a des gens qui nous disent qu'ils crèvent de faim ou qui ne savent pas ce qu'ils vont mettre sur la table à Noël pour leur famille, que le déficit soit à 3,1 ou à 3,2, certes c'est important, certes c'est une dette et je ne dis pas que ce n'est pas un sujet important, mais il y a une échelle des priorités. Moi je préfère faire de la politique avec mon cœur et pour les gens plutôt qu'avec uniquement une calculette.
En tout cas, les Français doutent désormais de la capacité d'Emmanuel Macron à réformer. Plus d'un Français sur deux ce matin.
Mais c'est un vrai défi, ça va être à nous de le prouver. Moi, j'ai toute confiance dans l'action du président de la République. Il a dit lui-même, au moment où il était élu président de la République dans une interview, qu'il était fait pour la tempête et pas pour les temps calmes. Là, on est en pleine tempête, donc je crois qu'il va nous prouver sa capacité à continuer à réformer, à transformer le pays.
Marlène Schiappa, c'est une première. Hier, un député La République En Marche a été exclu parce qu'il ne respectait pas la ligne du parti. Voter le budget, ça y est, vous avez vos frondeurs.
Je crois qu'il faut sortir de là. J'ai vu qu'il y avait un article ce matin chez un de vos confrères qui disait les députés suiveurs ou frondeurs. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Les députés, moi je les vois tous
les
jours.
Il a voté contre le budget.
Alors lui en l'occurrence, c'est pas une question de fronde, c'est une question que voter le budget. Vous savez, moi je suis élue municipale, c'est ce qui fonde la majorité municipale et c'est ce qui fonde aussi une majorité parlementaire.
Mais ça veut dire qu'à La République En Marche, tout le monde doit penser la même chose.
Non, mais il y a des lignes rouges sur le budget. Quand on vote contre le budget, effectivement, on n'a pas sa place dans une majorité. Et ensuite, il y a des débats sur énormément de sujets. On a une majorité qui est très large avec des différentes colorations, des différentes tonalités sur différents sujets et elles ont tout à fait le droit de s'exprimer.
Mais vous, par exemple, vous avez le droit de penser autre chose que ce que pense Emmanuel Macron ?
Mais bien évidemment, j'appartiens à un gouvernement, j'appartiens pas à une secte.
Quand vous avez proposé de rétablir l'ISF, Emmanuel Macron vous a très sèchement recadré. Faut rétablir l'ISF ?
Alors moi, ce que j'ai proposé, c'est d'abord d'évaluer la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Ça va être fait. Le Premier ministre Édouard Philippe a lancé ce groupe avec notamment une députée, Nadia Hay, et des personnalités qualifiées qui vont évaluer cela. Et ce que j'ai dit, c'est que si cette transformation n'a pas réinjecté suffisamment de capitaux dans l'économie, je proposerai à ce moment-là de rétablir l'ISF.
Mais vous persistez, signez.
Alors, c'est une position personnelle que j'ai prise, et le président de la République, qui est le chef de l'État, qui est celui qui a été élu, a tranché et a dit que ça n'était pas sur la table. Donc ça n'est pas sur la table.
Donc vous ne proposerez pas, quels qu'en soient les résultats, de rétablir l'ISF ?
Ça n'est pas sur la table, le président a rejeté cette proposition, mais là, on va va voir déjà les conclusions de cette commission. Je ne vois pas pourquoi on part perdant en se disant l'évaluation sera forcément négative.
C'est
symbolique. Il se peut qu'elle soit positive, nous verrons.
Marlène Schiappa, l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El-Razoui, est de nouveau menacée de mort après avoir pris position sur l'islam. Après avoir dit ça sur CNews.
Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République.
La meilleure manière de la soutenir aujourd'hui, c'est de dire que vous êtes d'accord avec elle.
Il y a différentes manières de la soutenir. Moi, vous savez, le soutien et ses positions, elles ne datent pas d'hier.
Mais vous n'êtes pas d'accord avec elle dans ce qu'elle dit ? C'est-à-dire, l'islam doit se soumettre à la critique, à l'humour, aux lois de la République.
Je suis évidemment d'accord avec elle, mais je l'ai dit à de très nombreuses reprises et depuis très longtemps. Il y a un an et demi, j'ai co-écrit un livre qui s'appelle « Laïcité. Point », dans lequel je rappelle que toute règle religieuse doit se soumettre aux lois de la République française. D'ailleurs,
à l'humour et à la critique.
Bien évidemment, le délit de blasphème n'existe pas dans la République française. Et la loi française, la République française ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est l'article 2 de la loi de 1905. On ne reconnaît pas les cultes et on ne se soumet pas aux différentes règles, lois, coutumes religieuses.
Et quand Zineb El-Razoui dit que les femmes voilées appartiennent et affichent une idéologie qui est l'idéologie de l'islam radical, vous la soutenez toujours ? Le voile, c'est une adhésion à une idéologie ?
Moi, ce que je soutiens, c'est la liberté d'expression et notamment la liberté de critique des religions qui est saine, je crois, dans une république et de surcroît dans une république.
Donc sur le voile, vous ne la soutenez
chacun,
pas.
Je crois qu'on n'a pas le temps ici de rentrer forcément dans les nuances, mais moi ce que je crois, c'est que le voile envoie un signal et notamment, je l'avais dit au moment de l'UNEF, je crois que c'est un signal notamment de promotion de l'islam politique quand il entre dans le débat public. Néanmoins, je suis opposée à toute discrimination vis-à-vis des femmes qui, adultes, font le choix éclairé de porter le voile. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon choix que ce n'est pas un bon choix et je n'ai pas à juger le choix de telle ou telle personne au titre de la liberté de conscience justement.
Merci Marlène Schiappa.
Merci à vous.
Merci mesdames. Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale, tous les jours à 8h15. Et à noter que ce dimanche, Mgr Michel Opti, archevêque de Paris, sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, à suivre dès 10h sur notre antenne.
Europe 1, il est 8h25.
À suivre la revue de presse de David Abiker. Bonne nouvelle, contre toute attente, les jeunes adultes s'entendent plutôt bien avec leurs parents. À 8h45, il arrive avec des cadeaux par milliers dans sa hotte pour nous gâter jusqu'avant Noël, le Père Canteloup et sa revue de presse sur Europe 1 avec Julie.
Et dans un instant, la revue de presse de David Abiker, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Mon cher Laurent Cabrol, ouais. Ça y est, officiellement, c'est sur l'hiver. Le papier, c'est l'hiver.
Ouais. Bah oui. Sur le papier, oui, c'est l'hiver calendaire, voilà. Celui de nos livres de géographie, celui que l'on a toujours appris. Et puis les météorologues ont décidé un jour, il n'y a pas longtemps, de mettre l'hiver le 1er décembre. Eh bien non, nous avons l'hiver le 21 décembre et c'est aujourd'hui.
Voilà. Merci monsieur.
C'était mon éditorial. Fermons la porte. Alors maintenant, je voulais vous donner un état de l'enneigement, mais je renonce parce que franchement, c'est très hétérogène selon les massifs et il faudrait vraiment beaucoup de temps pour être précis. Donc je renonce à cela, chers amis. Renseignez-vous auprès des stations où vous souhaitez aller parce que c'est vraiment, ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre et d'un massif à l'autre. Simplement vous dire qu'aujourd'hui c'est de la pluie et de la douceur. C'est la raison pour laquelle la neige est difficile à s'installer. La douceur est là encore, elle sera là pratiquement jusqu'à mardi. Donc la douceur se concrétise par des valeurs de 10 à 17 degrés à l'heure, pas à l'heure où nous parlons, à cet après-midi. Cet après-midi, température maximale entre 10 et 17 et en ce moment entre 4 et 12 degrés. Mm-hmm. Il fait 12 à Paris par exemple. Il pleuvra sur une grande partie de la France, excepté sur des régions comme le Nord-Bretagne qui retrouvera quelques éclaircies en deuxième partie de journée, le Nord, le Pas-de-Calais, les Ardennes. Nous aurons un ciel un peu voilé, mais quand même le soleil commencera à se montrer. Et puis partout ailleurs, eh bien, ce sera de la pluie avec de gros nuages et du vent.
Voilà. Ne perdez pas votre voix, une petite cuillerée de miel avant 9h, ça vous fera du bien. Vous allez vider le pot. Laurent Cabrol, on vous retrouve juste avant 9h pour un prochain point météo.
Europe 1. Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Éric Marache, vous êtes conseiller à la Caisse d'épargne. C'est quoi le nouveau parcours épargne personnalisé ?
Nous avons un objectif, nouer une relation privilégiée avec nos clients. À l'aide d'un questionnaire précis, nous identifions notamment avec lui son profil d'investisseur en fonction de ses besoins, de ses connaissances financières et de son appétence au risque, mais également les projets à court, moyen ou long terme qu'il peut avoir. Nous lui proposons ensuite des solutions d'investissement au plus près de ses besoins.
Mais vous allez au-delà ?
Tout à fait. Si la conjoncture économique bouge ou si le projet d'investissement évolue, nous nous engageons à proposer à nos clients des ajustements pertinents. Et grâce à nos solutions digitales, cet accompagnement renforcé est facilité pour nos clients.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Juste après la revue de presse de David Abiker, coup de fil à Lambert Wilson. Il est à l'affiche du film Au bout des doigts, en salle, mercredi prochain. Très joli film. 8h40, l'animal quand Lou débarque pour faire son show avec Julie. Et ça va faire du bruit à quelques jours de Noël.
Excellente matinée sur Europe 1 ce vendredi 21 décembre, il est 8h30.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
On retrouve David Abiker pour sa revue de presse, Nikos.
Vous avez tout lu ce matin ? Vous avez bu des mots par milliers ?
J'en ai avalé, ouais, des pages. Des pages et des pages. Salut,
on vous écoute. Bonjour David.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, parce que ce matin dans la presse, j'ai été piqué par le prix à payer pour entendre et être entendu. Ce prix à payer, ben, c'est 19,90€ les prothèses auditives dans la chaîne de supermarché Lidl. C'est ce que nous révèle Le Parisien aujourd'hui en France. Alors qu'habituellement, les amplificateurs auditifs, ce qu'on appelait aussi les sonotones, sont vendus autour de 300€, voire plus. Alors qu'est-ce que ça vaut les prothèses auditives à prix cassé à 19,90€? Eh bien, la direction de la concurrence estime qu'elles ne sont pas adaptées aux pathologies auditives, mais fournissent une aide ponctuelle. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que des amplificateurs, il y en a plein à la presse ce matin. Alors, ce n'est pas tous les mêmes. À commencer par la pétition pour une baisse des carburants sous laquelle le président de la République a répondu lui-même hier sur Internet. « Votre message, je l'ai entendu » a-t-il écrit aux millions... votre message, je l'ai entendu, c'est ce qu'il a écrit aux millions de signataires, les engageant à poursuivre le dialogue. Un autre amplificateur, puisque la pétition, c'est un autre amplificateur pour se faire entendre, eh bien, il est en photo dans le Monde Magazine. C'est un haut-parleur, un mégaphone. C'est celui qu'Erin Brockovich, la vraie, pas de Julia Roberts, dans le film. Ouais. Erin Brockovich, la conscience écolo, brandit pour s'adresser aux foules. Erin Brockovich est de retour, je vous dirai dans un instant pourquoi. Donc entendre, se faire entendre, mais aussi s'entendre ensemble à l'approche de Noël, c'est un peu la sonorité de la presse ce matin.
On va démarrer avec une bonne nouvelle, David, pour la paix des familles et des ménages. Peut-être les 18-24 ans s'entendent bien avec leurs parents.
Eh ben oui, certains qu'à Noël, on parlera politique, on parlera des gilets jaunes autour de la dinde. Peut-être se déchirera-t-on entre générations sur l'état du pays. Mais malgré tout, Le Figaro nous apprend ce matin, grâce à une étude de l'INSEE, que les 18-24 ans, ce qu'on appelle les jeunes adultes, s'entendent bien avec leurs parents pour les deux tiers. Voilà une bonne nouvelle. 21% évoquent des disputes de temps en temps, mais 14% des heures fréquents. En famille, ces grands-enfants parlent de tout, politique, travail, loisirs. Mais pour les sujets intimes, c'est maman qu'on va voir. C'est elle qu'on appelle. 8 jeunes sur 10 appellent leur mère au téléphone au moins une fois par semaine. Allô maman bobo. Mais ce qui interpelle dans cette étude, c'est que dans les familles où les 18-24 ans sont au chômage, les conflits avec papa-maman, ben c'est injuste, mais ils sont plus fréquents. La séparation des parents accentue également les tensions. Pire que ça, quand la famille s'entend bien, les aides financières versées par les parents à leurs grands-enfants atteignent 320€. En revanche, dans les familles où le climat n'est pas bon, ben on passe à 200€ d'aide. C'est presque injuste, c'est injuste. Ce qui fait dire à un expert interrogé par Le Parisien aujourd'hui en France que la circulation de l'argent dans une famille est un révélateur, parmi d'autres, de la bonne communication. C'est un peu comme un pays d'ailleurs. Quand l'argent circule et qu'il est redistribué, ben généralement l'ambiance est meilleure, on s'entend mieux et on n'a pas à se faire entendre.
Et la circulation de l'argent, c'est aussi un enjeu pour les commerçants, et ce à l'approche des fêtes de Noël.
Moins de cadeaux sous le sapin, c'est la une du Courrier de l'Ouest ce matin qui nous promet un Noël assez frugal. Cette année, les Français ont prévu de dépenser 85€ de moins que l'an dernier. Ça explique ce titre en une du Courrier Picard. Les commerçants rient jaune. Le quotidien est allé demander à des consommateurs ce qui les avait éloignés des commerces durant les dernières semaines. Véronique, consommatrice qui vit à Amiens, elle invoque les images anxiogènes de la télé. Idem pour Claudette. Sauf qu'à force de rester derrière son écran, on finit par se dire qu'on peut faire ses courses derrière l'écran. Une des conséquences de la crise, c'est que 19% des Français vont faire davantage de courses sur Internet, explique le Courrier Picard. Et les chiffres concordent, plus 11% de commerce en ligne par rapport à l'an dernier. Et puisqu'on parle psychologie, il faut lire aussi ce matin le Télégramme, qui relate les angoisses des employeurs et les craintes de 3 Français sur 4 à l'approche de cette échéance du prélèvement à la source, qui pourrait-elle aussi peser sur la
consommation.
En tout cas, ce qui marchera toujours, mon cher David Bicker, c'est la nostalgie.
Et c'est vrai qu'on de la nostalgie quand on ouvre Le Monde magazine cette semaine. Vous pourrez le lire ce week-end. On ne s'attend pas à tomber sur Erin Brockovich, la vraie, celle qui fut interprétée à l'écran il y a 19 ans par Julia Roberts, je suis encore amoureux, la lanceuse d'alerte qui avait dénoncé la pollution des eaux de Californie, revient sur les lieux de l'incendie géant qui viendra ravager le nord de l'État. Cette fois, c'est la compagnie PGE qui distribue l'électricité, possiblement à l'origine de l'incendie qu'elle interpelle. 20 ans de combat d'Erin Brockovich, la vraie, c'est à lire dans M le magazine. Et mon cher Nikos, puisque je vous parlais il y a 3 minutes d'écoute et à l'instant de nostalgie, je vous invite à lire Marianne, qui fait pour nous la playlist de ses chansons innocentes hier et incorrectes aujourd'hui. Des chansons qui, avec le temps, sont devenues homophobes, Garogorie de Brassens, misogynes, J'aime regarder les filles de Patrick Coutin,
vous le faites bien.
Anti-animal, Mon truc en plume de Zizi Jeanmaire, tout ça c'est devenu politiquement incorrect. Faut les enterrer, ces tubes, qu'on ne saurait entendre sans provoquer la colère des ligues de vertu, nous dit Marianne. Heureusement, Sud-Ouest fait ce matin la une de ces chanteurs disparus qui cartonnent. Pourquoi ? Ben parce qu'ils sont morts en fait. Et qu'ils ne dérangent plus personne, Johnny, Michael Jackson et Claude François. Attention, un titre particulièrement politiquement incorrect de Claude François.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.
C'est un peu dérangeant.
Bon, ils cartonnent aussi parce qu'ils sont bons.
Ouais. Tu vois pas que c'est dérangeant, vive le vent, vive le vent d'hiver.
Non, il est raccord avec le pull.
Et le réchauffement climatique, Nikos.
Ouais, on peut plus rien dire.
Non, mais ouais, voilà, on peut plus rien chanter.
Mais vous honorez les mots dans la presse. Merci David Abiker.
Europe 1. Et il est 8h35.
8h45, préparez-vous aux turbulences. La fusée Canteloup arrive à toute vitesse et lui n'a pas de tabou. Il dit tout, mais il le dit bien. Et pour son dernier jour avant Noël, il risque de nous gâter. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h37, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Avec cette information du service police-justice d'Europe 1, le corps sans vie d'une adolescente a été découvert au bord d'une route hier soir à Saint-Julien-de-Concelles, près de Nantes. Selon les premiers éléments de l'enquête, la lycéenne de 16 ans aurait été mortellement percutée par une voiture dont le conducteur a pris la fuite. L'arrestation du djihadiste français Peter Chérif est une très bonne nouvelle. Déclaration ce matin de la ministre des Armées Florence Parly. Ce proche des frères Kouachi a été interpellé à Djibouti. Il a été placé en garde à vue et il doit être transféré en France prochainement. Nouveau rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. Le patron de Renault espérait être libéré sous caution hier. Mais cette nuit, le parquet japonais l'a de nouveau placé en garde à vue, cette fois pour abus de confiance aggravé.
Europe 1. Nico Saliagas, c'est votre journée.
Et chaque jour, on passe un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Et ce matin, nous sommes en ligne avec Lambert Wilson à l'affiche du film Au bout des doigts. Bonjour Lambert Wilson, je vous réveille.
Bonjour Nico, ça va bien ?
Oui, très bien, vous êtes réveillé, ça va, tout va bien, vous êtes dans l'esprit de Noël.
Je me suis réveillé pour vous, bien entendu, mais il n'empêche que je suis un lève-tôt parce que je suis en pleine répétition d'un spectacle de théâtre, donc j'apprends mon texte le matin avant d'aller au boulot.
Vous allez jouer à partir du mois de février Le Misanthrope, c'est ça hein ?
Exactement.
Un classique.
Et oui, un très beau texte, un très grand metteur en scène, mais un des plus grands rôles, plus longs rôles du répertoire classique français, Alceste, et c'est un gros boulot.
On va parler du film Au bout des doigts, qui est un très très joli film, mais racontez-moi comment est-ce qu'on apprend Molière aujourd'hui, au XXIe siècle.
Eh bien, on se lève à 7h le matin, et il n'y a pas d'autre technique, il faut vraiment mémoriser. C'est une langue extrêmement subtile, très compliquée. J'ai l'impression d'apprendre 5 actes en chinois ou une langue que je ne connais pas du tout. C'est à peu près ça, c'est mot par mot, syllabe par syllabe.
Une autre respiration, une autre mémoire et surtout l'histoire aussi de cette magnifique langue qui est la nôtre. Alors dans le film...
Oui, et un très bon sujet. Enfin bon, on en parlera une autre fois.
On en parlera du Misanthrope, bientôt vous reviendrez, on en parlera. Alors Au bout des doigts, c'est un film dans lequel vous interprétez le directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et un jour, vous repérez un jeune homme qui joue sur un piano en libre service dans une gare au milieu du brouhaha et des passants indifférents. Vous allez être impressionné par sa virtuosité. C'est quand même dingue parce que cette histoire, on l'a vue dans nos flashs d'informations et d'actu cette semaine dans les quartiers nord de Marseille. Ça ressemble à ce gamin de 14 ans qui est un virtuose et qui est devenu connu dans le monde entier. Vous avez suivi cette histoire ?
Bien sûr, c'est le jeune Mourad. C'est exactement la même histoire. À ceci près que je ne connais pas l'histoire de l'enseignement, de l'apprentissage de Mourad. Le jeune premier dans le film, joué par Jules Benchetrit, il a étudié avec un vieux professeur qui est interprété par Michel Jonas dans le film. Et puis, il a l'oreille absolue, il est virtuose comme le fameux Mourad. C'est presque la même histoire, quartier défavorisé, mais accès à une musique dite réservée à l'élite, aux bourgeois et aux vieux finalement. Et on se rend compte qu'il y a un préjugé négatif sur la musique classique, ça appartient aux riches, etc. Et pourtant, regardez Mourad, lui, il est fou de Chopin, il joue ça sublimement. Et c'est le cas de notre héros dans le film.
Et c'est ce jeune garçon issu d'un quartier défavorisé qui va traîner un peu dans la petite délinquance. Vous, vous jouez le rôle d'un mentor dans le film, Lambert Wilson ?
Oui, mais c'est un musicien qui a vécu un drame que je garde comme une surprise pour le public. Ce qui fait qu'il va s'attacher beaucoup à ce jeune homme qui représente beaucoup pour lui. Et il va vouloir le présenter d'abord au conservatoire et puis aussi à un concours international pour représenter les couleurs du conservatoire. Parce qu'il est un peu en danger. Ça a un peu bien moins marché pour lui récemment. Il a eu moins de succès dans ses concours internationaux avec ses jeunes compétiteurs. Il a besoin d'un bon cheval finalement pour le représenter, ce conservatoire. Et surtout, il a trouvé en ce jeune homme un surdoué absolu. Et il veut que ce jeune homme consacre sa vie à la musique parce qu'il sait que c'est son vrai talent. Le môme en question, il s'est un peu perdu en faisant des petits casses en banlieue, etc. Ouais. Mais ça pourrait être le cas. On parle de la musique classique, mais ça pourrait être le cas d'un jeune homme qui est artisan, ça pourrait être le cas de quelqu'un qui a perdu son rêve. Et c'est ça qui me plaît dans le film, c'est que ça parle vraiment des adolescents et du rêve qu'ils ont à un moment donné quand ils sont très jeunes et auquel ils peuvent renoncer à un moment donné, se dire non, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Et grâce à quelqu'un comme mon personnage qui est sur son chemin, il peut reprendre le chemin de son rêve, voilà. et accomplir quelque chose.
Et trouver sa voie et avoir rendez-vous avec sa propre destinée, avoir confiance en soi. On parle beaucoup de ça en ce moment dans le malaise social qui est le nôtre, et puis aussi le malaise identitaire. Oui. Qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut.
C'est pour ça que quand on présente le film aux adolescents, aux jeunes, bien entendu, les gens qui aiment la musique classique se déplacent pour voir le film parce qu'ils disent « tiens, c'est intéressant ». Mais là où on a la plus belle récompense, c'est quand on le présente aux très jeunes, aux adolescents qui sont à ce moment de carrefour, de choix dans leur vie et qui se disent « mais finalement, il faut pas que je baisse les bras, il faut que je bosse, il faut que… » Les obstacles sont là, mais par exemple, dans la musique, les passerelles, elles sont accessibles, si on fait confiance à sa bonne étoile et si on bosse, il y a des conservatoires dans les banlieues, dans toutes les villes, des gens qui consacrent leur vie à la pédagogie.
Voilà, du travail, de l'estime de soi, puis croire en ses rêves jusqu'au bout. Merci Lambert Wilson d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Bonne fête.
Bonne journée.
Et bonne fête de Noël. Au bout des doigts, réalisé par Ludovic Bernard. Ça sort mercredi au cinéma en partenariat avec Europe 1. Merci Lambert Wilson et à très vite.
Europe 1.
Mais les 8h43, suivre Nikos Aliagas.
L'autre prodige de cette matinale, il est infernal, il faut bien le dire, mais on l'aime tellement. Mister Nicolas Canteloup et son cortège de voix et de cadeaux, accompagné de Julie, c'est la revue de presse, la revue de presque. Juste après ça.
Et il est 8h44, Nikos.
Nicolas Canteloup et Julie qui branche son casque, elle arrive, juste après les sous-titres.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec vous, Nicolas, pour le titre principal de l'actu.
Ouais, surround.
Allez, vas-y.
Salut, vous êtes tous là. Quel plaisir d'être avec vous. Oui, oui. Europe 1 vous accompagne. Bonjour Julie, bonjour à tous. L'actualité.
Bonjour.
Ce matin, elle est plus surround que jamais. Ah. C'est bien sûr la prime accordée aux policiers. Christophe Castaner est avec nous. Bonjour Monsieur Castaner.
Oui, merci de m'avoir mis cette musique. Bonjour Madame Julie, bonjour à vous Monsieur Aliagas, mais également tous les gardiens de la paix de ce studio. Merci de m'accueillir avec cette musique qui rappelle à la fois mon côté, je le crois, Jean-Paul Belmondo, mais aussi mon côté chien fidèle qui court dans les champs de blé, mon côté Royal Canin. Écoutez, pour répondre à votre question, nous avons, je l'assume totalement, accordé dans le cadre d'une négociation très classique, vous savez, une revalorisation, une prime aux policiers, car nous les respectons. Et nous...
Tu parles, Charles, du respect, pardon, mais vous nous jouez une partition, c'est du pipeau, c'est de la flûte, c'est parce que vous avez peur, vous avez eu la trouille avec 3 R, vous avez fait dans votre froc avec 16 R.
Monsieur Paty, regardez votre calme, pas du tout, nous sommes simplement conscients de la nécessité de revaloriser une profession qui souffre, qui est... en souffrance, oui, disons.
C'est la trouille. En 58, Nico, cher Nico Saliagas, en 58, ça me rappelle un film. Il y a eu le film, souvenez-vous, Le salaire de la peur. Eh bien, on est exactement ça dans cette forme de négociation.
53.
Ah, c'est un 53, merci.
Il rectifie lui-même.
Jean-Michel Apathy se corrige.
Oui, d'ailleurs, oui, 53. Et puis, il y a eu un autre film, cher Jean-Michel Apathy, qui correspond à la situation. C'est La soupe aux choux.
Ah, ah, hein.
Ben si, c'est parce que c'est Noël. Ah, les gilets jaunes sont jaunes, là, c'était des extraterrestres en verbe.
Oh là, non, tu parles, allez,
ça,
allez,
ça passe
allez.
Pas
ça c'est bon, non, allez, c'est bon, Nikos. Ça ira pour aujourd'hui.
Merci.
Ségolène Royal a déclaré qu'elle serait prête à être numéro 2 sur une liste aux européennes conduite par l'écologiste Yannick Jadot. Bonjour, Ségolène Royal.
Oui, moi, c'est pour le film Pretty Woman. Oui, bonjour à tous. Écoutez, bien sûr, je suis prête, je le redis à votre antenne, à mettre mes compétences au service d'un combat collectif. Et mes compétences, c'est quoi ? À l'évidence, c'est d'être numéro 2. Hein, un peu d'autodirision ne fait pas de mal à la présidentielle de 2007. Ben oui, monsieur Apathy, j'ai terminé, souvenez-vous, numéro 2 derrière... Monsieur Sarkozy, hein. Avec François, quelque part, j'étais numéro 2 derrière Valoche. Hein. Voilà, je suis une sorte de poulidor de la politique. Hein. Allez, poufou.
Pouli.
Oui, pouli.
Et donc, pourquoi vous avez tendu la main à Yannick Jadot ?
Bon, parce qu'il est transparent. Hein. Et c'est plutôt malin. Si je suis derrière quelqu'un de transparent, qui qu'on voit, ben c'est Bibi, hein, c'est pouli.
Malin. Alors, en définitive... Il a refusé fermement, voilà, vous oubliez de le dire ça. Hein. Pourquoi vous n'y êtes pas allé, vous hein ? Ça ne vous intéresse pas, les européennes ? Eurodéputés ?
Bon, mais si, écoutez, eurodéputé, c'est un métier passionnant, eurodéputé. Ouais. Hein, si, c'est excitant comme dessinateur de paquets de lessive hein, ou commercial en boulon de 12. Hein. Mais je préfère laisser cet honneur à des gens qui le méritent. Hein. Je ne sais pas, je vais proposer à Benoît Hamon, il a le profil.
Mais pourquoi vous vous lancez dans cette campagne alors si vous ne voulez pas être élu, on ne comprend pas.
Vous ne comprenez pas vite. Non. Hein. Je veux y aller justement, chère Julie Leclerc, parce que je sais que je vais paumer.
Ah, hein. D'accord.
Mais simplement, je veux juste voir à quel niveau de branlée je me situe hein, pour corriger le tir pour la campagne de 2022. Car il est là mon objectif, c'est une sorte de... Hein, de d'élection blanche, c'est une répétition de branlée.
Bah, c'est très clair comme ça.
Oui,
merci,
oui.
Ségolène Royal. Bah, bonne chance quand même.
Hein. Je vous en prie.
Hier, Emmanuel Macron était dans l'Aisne. Il visitait un centre accueillant des enfants victimes de maltraitance. Et un des enfants lui a demandé si l'essence allait baisser. Oh. Le président l'a rassuré et nos équipes étaient sur place. Écoutez.
Oui. Oui. Regardez comme c'est touchant. C'est... Les pauvres lapins. Rendez-vous compte, ils sont... Ah oui. Ils sont maltraités. Et en plus, ils vivent dans l'Aisne, les pauvres enfants.
Monsieur Macron, oui, est-ce que le prix de l'essence va baisser ?
Si l'essence va baisser, mon chéri, disons. Quel type de question ? Oui, écoute-le. Ben, je vais te répondre. Le Premier ministre a dit qu'il allait effectivement enlever cette taxe, mon chéri.
Mais c'est pas un peu de l'enfumage ? Comme avec le chèque énergie, hein ? Il est 100 euros sur le SMIC.
Mais attends,
on a bien vu que c'était une magouille.
Non, mais attends,
en fait, c'est la prime d'activité.
Mais de quoi
bon,
tu
me... bref, il va vraiment baisser le prix de l'essence, vous êtes sûr ?
Non, mais comment il me parle, celui-ci, là ? Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gamins, en ce moment ? Mais qu'est-ce que ça peut lui faire, le prix de l'essence ? Non, mais t'as même pas de voiture, qu'est-ce que ça peut te faire ?
Et est-ce que le Père Noël, il va m'apporter un nounours ?
Écoute, mon chéri. Comment te dire ? Le Père Noël...
Oui, je me calme.
Le Père Noël aimerait bien. Mais comment te dire ? Le Père Noël, il doit trouver 10 milliards pour les lutins jaunes. Tu comprends ?
Les lutins jaunes. Hein ?
Tu imagines 10 milliards de bonbons, c'est beaucoup. Alors le Père Noël, il va rogner sur le budget nounours, tu comprends ? Tu sais, mon trésor, oui, tu as été maltraité, mais en même temps, tu coûtes très cher à l'État.
Oh là là, stop !
Il faut faire des efforts, hein ? Voilà, joyeux Noël, allez, au revoir.
Mais moi, je voulais un nounours !
Oui, bah écoute, si tu veux... Bon, écoute. Si tu veux un nounours, tu sais quoi ? T'as qu'à te fabriquer ton nounours. T'as qu'à créer une start-up de nounours. Hein ? Voilà. Et puis au lieu de te mêler de budget, tu ferais mieux de t'intéresser à l'histoire, aux grandes dates historiques. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et c'est toi qui me réclames des cadeaux ? Tu m'as même pas fêté mon anniversaire.
Et bah moi, je vais voter Mélenchon. Comme ça, on taxera les riches et ça changera.
Non mais qu'est-ce que c'est que ces gosses là ? Non mais attendez, non mais on dit que le niveau de l'école a baissé, mais c'est pas vrai. Ils sont beaucoup trop au courant là. Bon, pour Noël, tu sais quoi ? Je vais t'offrir un attaché-case et une cravate à toi, là.
Bah ah merci, Monsieur le Président. Incroyable. Ces gosses, mais par qui ils sont élevés? Par les canteloups, je crois. Ouais.
C'est des mini canteloups, des vrais mini canteloups là qui participent. Il les fait travailler, il les fait travailler tout de suite.
On demande de toi participer à l'effort de la nation.
On en parlait tout à l'heure. Les règles du rugby vont-elles changer à la suite du décès d'un jeune joueur? Le plaquage va-t-il être interdit? Bonjour Bernard Laporte.
Oui, bonjour, bonjour Mme Julie, bonjour à tout le PAC avec bien sûr Winnie Bouchard, Apathy, les Cabros, les Alias Acosta, et toujours silencieux derrière, Abiker et Salissus.
Merci.
Bonjour à tout le PAC. Écoutez, bon, franchement, changer les règles de rugby, c'est peut-être, je pose la question, dénaturer le sport. Je veux dire, si on n'a plus le droit de tuer son adversaire à main nue, autant faire du tricot. Déjà qu'on a interdit les armes blanches, M. Apathy le sait, du sud-ouest, on a interdit les armes blanches dans les médées, ça va devenir un sport de grammaire. La suite, c'est quoi? On n'aura plus le droit de mordre à la jugulaire, c'est ça? Donc je dis attention, attention, il y a de la dérive dans l'air.
Allez, merci Bernard Laporte, on verra ce que ça donne plus tard. La députée France Insoumise, Danielle Obonneau, a utilisé le mot bolos dans un discours à l'Assemblée. On a découvert que c'était suite à un défi que lui avait lancé l'animateur Coé.
Ouais, salut ma Juju, salut, salut, salut.
Bonjour Patrick Sébastien.
Oh, la mère Obonneau, elle va trouver le cul. Elle fait des... Oh, ben elle fait des défis drôles avec Coé à l'Assemblée nationale. Elle est des glingos. Moi, je l'adore. J'adore. Ça m'a donné plein d'idées. J'ai envoyé des défis aux députés. Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon. Je lui ai demandé de foutre des nouilles dans le slip d'Edouard Philippe.
Oh là là.
En chantant, vous avez pas vu Merza déguisé en Bourville. Et là, je défie. Hey, tu sais quoi? Je défie Jean Lassalle de se déguiser en Coluche et de faire le schmilblick pendant les questions au gouvernement en mangeant une pastèque. J'espère qu'ils vont jouer le jeu. C'est la fête. C'est que de l'amour.
Ouais.
Ouais, avec nous Nico, avec le lolo.
Salut Patrick.
C'est le même ouais que Nico, ça.
Ouais. Presque. C'est le ouais d'animateur.
Allez, on va recevoir maintenant Laetitia Hallyday. Noël approche.
Oui.
Ah, vous êtes Laetitia,
ah, vous êtes là.
Vous êtes la femme idéale pour organiser les fêtes. Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées de cadeaux, peut-être?
Ah, mais des idées de cadeaux, il y en a plein. L'important, c'est de varier.
Oui.
Que la soirée soit vraiment magique, il faut varier. Il faut vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts. Vous pouvez acheter le CD Johnny, par exemple.
Ah, oui.
Mais si on n'aime pas, on peut aussi acheter le livre de Johnny.
Ah oui, c'est varié, oui.
Mais si on n'aime pas, bon, bah, après, on peut se rabattre sur le pantalon en cuir de Johnny, le t-shirt tête de loup de Johnny, le bandana Johnny, le crucifix pendentif de Johnny, ça va vraiment avec tout. Enfin, ça va avec tout, si vous aimez le look fan de Johnny avec la barbichette et les cheveux peroxydés.
Oui, bon, on aimerait savoir, est-ce que vous allez vous réconcilier avec David et Laura pour les fêtes?
Oui.
Ah,
c'est prévu.
Ah, oui.
Voilà une bonne nouvelle.
Oui, c'est
la trêve de Noël. Dans l'esprit de Noël, j'ai envoyé un petit carton d'invitation à Laura et David pour un dîner de Noël magique en famille dans ma maison de Marne-la-Coquette.
Ah, parce que vous serez en France pour Noël?
Non, parce que moi, je serai à Saint-Barth, parce qu'avec le prix du gasoil, bon, je ne peux pas me permettre. Non, c'est juste pour je leur ouvre la maison.
Ah, d'accord.
Pour qu'ils puissent se retrouver, voilà, tous les deux seuls en tête à tête pour Noël. Et j'aurais préparé une petite surprise dans la maison qui va leur faire chaud au cœur.
Ah, c'est quoi la surprise?
J'aurais coupé le chauffage. Joyeux Noël, les deux enfoirés.
Joyeux Noël à vous, Nicolas Canteloup, à votre famille, à Philippe Cabrivière, à Laurent Vassilian, à Arnaud Demanche, à Julie. Qu'est-ce qu'on ferait sans Nicolas Canteloup?
On se demande.
Merci beaucoup et bravo.
Il est 8h57 à suivre l'essentiel de la matinale avec Nicolas Aliagas, mais tout de suite la météo avec vous Laurent Cabrol. Quel temps pour ce premier jour de l'hiver?
C'est pas brillant, c'est-à-dire que la perturbation est très large, elle est très vaste. Inutile de vous dire qu'elle doit mesurer peut-être 600 km, vous voyez à peu près le genre, 600 km de large et à peu près 500 km de long. Donc de l'appli pour tout le monde, je la vois sur les images satellites et quand on voit ça, on se dit que la journée s'annonce quand même très grise. Pour l'instant, relativement épargné, le sud du Massif central, le bassin méditerranéen et les régions du sud-ouest. Mais partout ailleurs, la pluie est là, elle va s'estomper de temps en temps sur les côtes de la Manche, c'est tout. En ce qui concerne maintenant les températures, ce sont des températures très douces. Vous les avez notés si vous êtes déjà dehors. Il fait entre 7 et 10 degrés en ce moment sur deux tiers des villes de France et dans la journée entre 10 et 17. Voilà.
Merci Laurent Cabrol.
Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Vendredi 21 décembre, on revient sur les moments forts de cette matinale avec vous, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater, l'information de cette matinale, c'est l'arrestation à Djibouti du djihadiste Peter Sherif, proche des frères Kouachi, qui avait perpétré l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Il a été placé en garde à vue en attendant d'être transféré en France. Écoutez la réaction de l'avocat des victimes de l'attentat de Charlie, maître Gérard Chemla. C'était dans le journal de 7h30.
Peter Sherif, c'est un Français. Ce garçon était dans l'enfance des frères Kouachi extrêmement proche d'eux. Et c'est lui qui a commandité, c'est-à-dire qui a donné l'ordre qu'on réplique aux journalistes de Charlie par cet attentat absolument épouvantable. Mais c'est quelqu'un qui va revenir en France, qui va être mis en examen, qui va être jugé. C'est-à-dire qu'on va opposer à un terroriste un processus de justice qui est quand même quelque chose de très satisfaisant.
On vient de l'apprendre, l'INSEE confirme ce que l'on sentait après un mois de crise des gilets jaunes. L'économie a ralenti en décembre, le commerce de détail est principalement touché. La consommation des ménages en repli de 0,3% pour le mois de novembre. Et puis une belle histoire ce matin sur Europe 1, celle d'Emma, une maman qui élève seule sa fille handicapée. Eh bien, un de nos auditeurs à la retraite, Jean-Jacques, a décidé de lui venir en aide ce matin après avoir entendu son témoignage sur notre antenne et de lui donner chaque mois une somme d'argent pour que sa fille puisse se faire opérer. Réaction de la maman Emma ce matin, c'était à 7h45.
J'ai été très très surprise et agréablement surprise, mais très 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 gênée parce que effectivement, comme vous l'avez justement dit, je témoignais sans attendre en retour. Il y a une solidarité, il y a une humanité qui se révèle et je pourrais jamais remercier suffisamment Jean-Jacques.
Voilà pour l'essentiel de la matinale. Voilà pour ce qu'il ne fallait pas rater ce matin. Merci à toutes les équipes. Merci à vous de votre confiance depuis la fin du mois d'août. On avance ensemble, tranquillement, mais on avance sûrement. Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Le meilleur pour 2019. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès le 7 janvier. Je vous laisse évidemment entre les mains expertes de Bernard Poirette dès demain 6h et de Pierre de Villeneuve à partir de lundi 6h. Bonne écoute sur Europe 1. Merci Céline Dacosta.
Merci à vous Nico, c'est belle fête.
Bonne fête à vous et à votre famille, à vous tous qui nous écoutez. N'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est le plus important.